Vous allez entendre un message de William Branham prêché le matin du 10 novembre 1963 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Ce message s'intitule « Les âmes qui sont maintenant en prison ». Premièrement, pendant un court instant, vous entendrez Frère Branham prêcher en anglais. Puis, vous entendrez la traduction française de ce message.
So, if anybody hears me, and I'm getting to be an old man, I don't know how much longer I got. I'll soon be 55 years old. And I don't know, according to nature, I may not have too many years. I don't know where this tape will go. But let everyone hear into the tape or wherever it may go. Don't never go towards that regions of the lost. You can't picture hell being that bad. And whatever you do, don't you never forget this, that the regions of the blessed, I would say this, with St. Paul, eye has not seen, ear has not heard, or either could it enter the heart of man what God has for them in store that love Him. So stop if you're listening to faith. Turn the machine off and repent if you're not saved. And get right with God. Saying this by first-hand experience, as I believe in my heart, and I say, if the visions has deceived me, God be merciful for me to make a statement like that, but with the sincerity in my heart, knowing that not one of them visions ever failed, I believe that I have been in both places. Far be it from any human being going that road downward. Now, Jesus, after He had finished His ministry, preached to those souls that were unsavable, that could not ever be saved. Now, the Bible tells us that. He went and preached to the souls that were in prison that repented not. When mercy was given to them, they spurned mercy, and now they're waiting for the judgment. Oh, what a time that must have been. Oh, I wish there was some way out.
Inclinons nos têtes un instant. Père Céleste, nous te sommes reconnaissants aujourd'hui pour le privilège que nous avons de nous rassembler une fois de plus, sachant qu'un jour nous nous réunirons pour la dernière fois en tant que mortels et qu'ensuite nous serons réunis avec toi dans un état glorifié, avec les rachetés de tous les âges. Oh, nos cœurs battent fort dans cette grande expectative, dans l'attente de cette heure. Aussi, toute crainte disparaît de nous. Nous n'avons rien à craindre, rien à redouter. Nous regardons en avant vers la promesse que le Dieu éternel nous a faite, et nous savons que c'est la vérité. C'est pourquoi nous vivons pour cette heure, ce moment où le mortel sera changé et que nous deviendrons comme lui. Alors il n'y aura plus de maladie, plus de tristesse, plus de chagrin. Oh, ce sera alors tout à fait terminé. Le cœur joyeux, plein de foi et de courage, nous attendons ce jour. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui, Seigneur. C'est pour confesser nos erreurs et implorer ta miséricorde. C'est pourquoi nous venons à cet autel ce matin, car nous savons que nous sommes mortels, qu'il y a beaucoup de fautes en nous et que nous sommes imparfaits. Mais nous venons confesser nos erreurs et ensuite regarder à notre Père Céleste, avec des cœurs ouverts pour recevoir les bénédictions et le renouvellement de nos forces et de notre foi qu'il nous donnera en cette heure, alors que nous sommes réunis ici, selon la promesse, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Car nous proclamons que nous sommes passés de la mort à la vie, selon sa promesse, et que nous avons été enlevés dans une atmosphère céleste, où nous sommes maintenant assis avec lui. Puisse-t-il nous enseigner ce matin les choses qu'il désire que nous sachions, et donne-nous le pain de vie, afin que nous puissions être soutenus dans les jours à venir. Accorde-le, Seigneur, c'est là prière que nous te présentons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à chacun. Nous sommes très réjouis d'être à nouveau réunis ce matin avec vous dans cette atmosphère céleste d'adoration. Je suis quelque peu en retard. Nous avons été appelés pour des cas très, très graves il y a quelques minutes. Un garçon était étendu là à la mort et aussi certainement que je me tiens ici, le Seigneur touche à son corps et le remit sur pied. Ce garçon est ici. C'est le fils de mon cousin. En fait, ils étaient catholiques. Ce matin, ils sont allés à la messe, mais quelque chose les a poussés à venir ici. Ainsi, il y a eu un changement. Ils vont d'abord venir à la maison afin de se préparer pour le baptême d'eau. Notre Seigneur accomplit tout le temps des choses merveilleuses. Il fait sans arrêt quelque chose. Ils sont venus et n'ont pu entrer. Ils ont dit il n'y avait pas moyen d'entrer. Alors je leur ai dit, eh bien, voulez-vous me parler? Si c'est le cas, venez à la maison et nous en parlerons là-bas. J'ai pensé, en allant à New York pour cette réunion, ce serait vraiment bien si je sais que je serais rafraîchi en m'arrêtant là et que mon feu serait rallumé au contact du vôtre. Et c'est ainsi que nous sommes ici pour un jour. Nous sommes arrivés avant-hier à midi et nous devrons partir. J'étais sur le point de partir cet après-midi, mais je pense finalement que je partirai. Si nous nous mettons en route tôt, très tôt demain matin, nous aurons peut-être de la neige sur la route d'ici à New York. Je vais traverser la Virginie, les montagnes et aussi les Alleghenies et le bas des Adirondacks. Ainsi, nous commencerons à... J'ai oublié, c'est cette nouvelle arène là-bas. Je crois savoir qu'on a démoli la vieille arène Saint-Nicolas pour construire celle-ci. Pour autant que je sache, nous l'occuperons dans les premières soirées de son utilisation. C'est pourquoi nous en sommes reconnaissants, ainsi qu'aux pentecôtistes du Grand New York. Je pense qu'il y a plusieurs églises qui coopèrent et nous attendons à avoir un temps béni. Nous serons de retour, Dieu voulant, dans le courant de la semaine prochaine. Et si c'est la volonté de Dieu, nous espérons pouvoir nous arrêter dimanche, dans une semaine, pour le service du matin. Je me suis de nouveau mal pris vis-à-vis de notre pasteur, comme je le fais toujours, vous voyez. Et je pensais que si peut-être, je suis entré ici sans avertir. Étant donné qu'il y a un bon groupe de gens ici, et que j'en vois de l'extérieur, je pensais que ce soir peut-être, si le pasteur n'a rien de spécial, nous pourrions avoir un petit service, un bref service, pour prier peut-être pour les malades. Merci. Nous espérons prier pour les malades ce soir, parler de la guérison divine et prier pour les malades. Nous commencerons tôt afin de pouvoir aussi sortir tôt. Et si le pasteur, vous commencez généralement à 7h30, n'est-ce pas? Que diriez-vous de commencer à 7h ce soir? 7h pour que je puisse commencer à 7h30. Cela me permettra de sortir à 8h ou 8h30 et cela donnera le temps aux gens de rentrer, si c'est en ordre. Tout le monde se mit à rire quand j'ai dit 8h ou 8h30. J'espère être dehors à cette heure-là. En priant pour les malades, vous savez, on ne sait jamais quand ça finit. Ainsi, nous avons eu un temps béni depuis que nous vous avons quitté au début de cet automne, et le Seigneur nous a bénis de nombreuses manières. Ce soir, Dieu voulant, je désire vous parler de la dernière visitation de Dieu que j'ai eue dans le Colorado, il y a quelques semaines. C'est ce que j'ai pensé vous apporter. Cela stimulera peut-être la foi ce soir en vue d'un bon service de guérison pour les malades et les affligés. Ce matin, pour commencer tout de suite ce service, je vais dire que quelque chose a touché mon cœur il y a environ un mois. Et peut-être, maintenant je pense qu'ils sont-ils en train d'enregistrer? Très bien. Ainsi je sais si la bande va aller chez d'autres. Je ne peux pas dire que la chose dont je vais parler ce matin, je ne peux pas dire que ce soit... Je sais que c'est juste. Le message proprement dit sera juste. Mais la chose que je veux faire, c'est d'exposer une question que j'ai à l'esprit. Cela paraît si réel, et pourtant, depuis que je suis entré, et depuis que cela m'a été révélé, j'ai si peur de dire une chose qui ne soit pas, et que cela laisse peut-être une mauvaise impression aux gens. Des notes que j'avais relevées sur ce que j'allais dire, j'en ai retranché une partie, afin que cela ne soit pas trop fort. Parce que, voyez-vous, si une personne J'aime le Seigneur Dieu. Et la seule manière qui me prouve que je l'aime, c'est que je sais que je vous aime. C'est la seule manière pour moi de le savoir. Et pourtant, je ne voudrais pas que quelque chose me soit révélé et que je ne vous le dise pas si je dois le faire. Et ensuite, j'ai peur de dire quelque chose d'un peu trop fort qui blesserait peut-être quelqu'un. Et vous savez, vous devez presque venir simplement sur l'estrade et ensuite dire ce que vous sentez conduit à dire. C'est tout. Et parfois, il se peut que vous disiez quelque chose et quelqu'un le verra d'un autre angle. Et ils partiront de ce côté-là. Alors quelqu'un dira, « Oh, c'est ceci, voyez-vous. » Et je veux que vous sachiez que ce que je vais dire n'est que présumé. Et le mot « présumé » veut dire s'aventurer sans autorité. Ainsi, je ne dis pas que c'est vrai, mais ce n'est qu'une pensée que je vous apporte en passant, afin que vous puissiez la peser et en faire vos propres déductions. Bien sûr, ce sera scripturaire, parce que je ne prêcherai rien d'autre. Mais cette heure est-elle déjà arrivée? Sommes-nous arrivés à cette heure? Ces choses voulaient-elles dire cela? Je prie de toutes mes forces pour que ce ne soit pas le cas. Je prie que ce ne soit pas juste, que ce ne soit pas ainsi. Pourtant, cela va arriver. Mais ce temps est-il déjà arrivé? C'est ce que je me demande. Maintenant, tout le monde comprend-il bien que je ne sais pas? Est-ce maintenant? Si c'est le cas, que Dieu soit miséricordieux envers nous. Mais si ce n'est pas maintenant, cela viendra. Maintenant, dès que possible, nous avons de grands projets devant nous, Dieu voulant. Je dois aller outre-mer juste après Noël, en Europe et en Asie, mais spécialement en Europe. Et ensuite, je reviendrai ici, aux États-Unis, pour quelques réunions, avant de retourner en Afrique du Sud. Je commencerai le 2 septembre à Durban, et je serai là, je pense, du 2 jusqu'aux environs du 10. Ensuite, j'aurai 3 jours pour aller de là à Johannesburg pour recommencer. Mais je pense que c'est en avril que nous commencerons nos tournées en Scandinavie, en Norvège, en Suède, en Finlande, en Hollande, en Suisse, en Allemagne, et que nous parcourrons toute l'Europe. Ainsi, priez pour nous. Nous aurons quelques réunions ici à Noël, juste après Noël. À propos, nous désirons être ici pendant les fêtes de Noël. Les enfants veulent venir à la maison à Noël. Nous aimons l'Arizona, mais vous savez, ce qui nous manque et que nous ne pouvons pas oublier, c'est cette Église et vous tous. Peu importe où nous allons, ce que nous faisons, pour les enfants, ma femme et moi, pour tous, il n'y a pas d'endroit comme celui-ci. C'est vrai. Il n'y a pas d'endroit pareil. J'ai navigué sur les 7 mers, je suis allé partout, mais il n'y a pas d'endroit qui me semble sanctifié comme celui-ci. Essayez simplement de vous en éloigner, si vous le voulez. Il y a quelque chose de spécial ici. J'ai prêché pratiquement dans le monde entier, mais je n'ai jamais senti nulle part l'Esprit de Dieu comme nous l'avons entre nous, quand je suis ici. C'est cela. Dieu le laissa. Le jour où j'ai posé là cette pierre angulaire, j'ai dit, « Seigneur Dieu, ne laisse pas ceci tomber. Les gens ont dit, dans 2 mois, ce ne sera plus qu'un garage. » J'ai dit, « Ne laisse pas ceci tomber, Seigneur, que cela soit debout et que les gens soient ici te louant quand Jésus reviendra. J'espère qu'il en sera ainsi. » Maintenant, ouvrons nos Bibles et attendons-nous au Seigneur pour qu'il nous donne ses bénédictions. Nous voulons lire quelques passages de l'Écriture. J'ai inscrit ici quelques passages auxquels je veux me référer et quelques notes. Je veux lire à 3 endroits de la Bible et je vais premièrement vous les donner. Je lirai dans Jude 5, 6. Jude n'est qu'un seul livre, vous savez. Et ensuite, 2 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. Et pour terminer, 1 Pierre 3, 18 à 20. Et mon sujet ce matin, Dieu voulant, sera les âmes qui sont maintenant en prison. Les âmes qui sont maintenant en prison. Enfermées, condamnées pour toujours, sans aucun moyen d'être sauvés. Les âmes qui sont maintenant emprisonnées. Maintenant, lisons premièrement dans le livre de Jude. Je crois que j'ai marqué ici comme première référence Jude, ensuite 2 Pierre, puis 1 Pierre. Maintenant, Jude. J'aimerais le lire en entier, mais pour gagner du temps, car c'est déjà 10h30, je vais commencer au verset 5. Jude était un frère de lait de Jésus-Christ, comme nous le savons tous. Il était le fils de Joseph. Je veux vous rappeler, à vous qui savez bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Premièrement, il les sauva, les fit sortir d'Égypte, et ensuite, il dut les faire périr parce qu'ils ne continuèrent pas avec leur message. Voyez-vous, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Les anges qui, une fois, demeurèrent dans le ciel et qui ne gardèrent pas leur dignité, ne restèrent pas ce qu'ils étaient, tombèrent et sont maintenant éternellement chaînés par les ténèbres. Elles sont gardées dans cette condition jusqu'au jugement du grand jour, quand ils seront jugés avec le reste des incroyants. Maintenant, dans 2 Pierre chapitre 2, depuis le verset 4, c'est un livre ou deux en arrière. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais qu'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais qu'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie, il n'a pas épargné les anges, mais les a précipités dans les abîmes de ténèbres, et a condamné le monde entier par la destruction au temps de Noé. Maintenant, dans 1 Pierre chapitre 3, depuis le verset 18, lisons de nouveau. Maintenant, écoutez attentivement. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Mis à mort dans la chair, mais vivifié par l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Il prêcha à ces gens en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Prions de nouveau. Maintenant, Père Céleste, avec cette succession de passages de l'Écriture, nous avons 3 témoignages, 3 endroits dans les Écritures qui rendent témoignage. Et tu as dit dans ta parole que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Maintenant, je te prie, ô Dieu, de t'approcher des gens et d'interpréter cette parole, ce message, dans la lumière qu'il doit avoir, afin que chaque homme, femme, garçon ou fille, puisse le comprendre selon la capacité de compréhension que tu as accordée à chacun. Et maintenant, sachant que ces 3 témoignages déclarent la vérité, je te prie d'envoyer maintenant le Saint-Esprit sur nous. Nous regarderons à celui qui est notre roi, au milieu de nous ce matin, le Seigneur Jésus-Christ, vers qui nous nous sommes élevés par la foi, étant maintenant assis dans les lieux célestes en lui. Nous attendons son message. prononce-le à travers nous, écoute-le à travers nous, alors que nous te demandons de circoncire les lèvres qui parleront et les oreilles qui entendront, afin que cela puisse être à l'honneur et à la gloire de celui qui est l'Écriture. Car nous te le demandons en son nom. Amen. Maintenant, souvenez-vous de la réunion de ce soir, du service de guérison. Je ne pense pas que ce sera nécessaire de distribuer des cartes de prière. Ainsi, nous prierons simplement pour les malades. Il y a quelque chose que je veux vous dire et j'espère que cela conduira l'Assemblée jusqu'au point où il y aura toutes sortes de guérisons. Je sais que cela arrivera si nous le croyons. Maintenant, revenons à ces âmes en prison. Les âmes qui sont maintenant en prison. L'âme d'un homme n'est pas son corps. L'âme, c'est la nature de l'esprit. Et alors que la nature d'un homme, quand il dit « nous sommes morts », l'Écriture nous dit clairement que nous sommes morts et que nos vies sont cachées en Dieu par Christ, scellées là par le Saint-Esprit. Ce n'est pas que votre corps soit mort, ce n'est pas que votre esprit soit mort, c'est la nature de votre esprit qui est morte. Voyez-vous, la nature, ce qui est l'âme, la nature de votre âme, c'est Dieu. Si vous êtes né de nouveau, si ce n'est pas le cas, elle est du monde. Tout ce qui commence doit finir. C'est pourquoi la seule façon dont vous puissiez avoir la vie éternelle, c'est d'avoir une vie qui n'est jamais commencée. Alors que votre vie terrestre a commencé à votre naissance, quand Dieu fit passer le souffle de vie dans vos narines et que vous êtes devenu une âme vivante, c'est alors que vous avez commencé. Mais quand vous, cette nature qui était en vous, par nature vous étiez du monde, détaché de Dieu, vous étiez en fait un animal. Exactement. Tout le monde sait que nous sommes des mammifères. Combien de temps que nous sommes des mammifères? Nous sommes des animaux de haut sang chaud. C'est ce que nous sommes, par notre création terrestre. Mais voyez-vous, ce qui nous rend différents des autres mammifères, c'est que Dieu a mis une âme en nous. Les autres mammifères n'ont pas besoin de porter d'habit. Aucun autre animal ne doit porter d'habit pour cacher sa honte. Excepté nous, nous sommes les seuls à le faire, parce que nous avons une âme. Mais voyez-vous, Dieu, au commencement, savait ce que serait un homme. Elle créa la terre et toutes sortes d'animaux, du plus bas au plus haut de l'échelon. Et l'animal le plus haut qui soit apparu, c'était l'homme. Premièrement, quand l'homme fut créé, c'était un homme esprit, à l'image de Dieu, car Dieu est esprit. Saint Jean 4. Maintenant, il est esprit, et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité, et sa parole est la vérité. Maintenant, nous l'adorons en esprit et en vérité. Il est un être spirituel. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, alors Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Puis il prit de son côté un sous-produit, une côte, et il divisa cet homme qui avait une double nature. Il était à la fois féminin et masculin. Il fit sortir le féminin parce que c'était l'amour, et le plaça dans une personne appelée Ève, qu'Adam appela Ève, qui était sa femme. C'est là que son amour naturel, philéo, s'attacha à sa femme. C'est ainsi que devrait être un homme aujourd'hui, et elle envers son mari, l'homme le masculin, la femme le féminin. Et après avoir créé l'homme à son image, il les créa, mâle et femelle. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol, et le mit dans la poussière de la terre, et c'est pourquoi il était cet homme. Cet être humain était un mammifère, il était un animal, mais il plaça cet esprit de Dieu, une vie en lui, et le créa de manière à ce qu'il puisse faire un choix. Et alors quand cet homme, maintenant, nous pensons à quelque chose, souvenez-vous simplement, que sommes-nous? Une motte de terre, c'est tout. Et parce que tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Ainsi, quand vous voyez un homme marcher dans la rue en pensant qu'il est quelqu'un, et qu'il a une certaine instruction, souvenez-vous que c'est une poignée de poussière d'Indiana. C'est tout. Et une femme vêtue de shorts qui fume la cigarette et qui se conduit mal dans la rue, se dandinant comme si elle possédait le pays entier, c'est une poignée de poussière d'Indiana. Et c'est à cela qu'elle retournera. Ainsi, vous voyez que pour commencer, vous n'êtes pas grand-chose. C'est vrai, c'est ce que vous êtes. Mais cette âme qui est à l'intérieur, cette âme est la chose sur laquelle Dieu est à l'œuvre. S'il arrive seulement à ce que la nature de cet esprit s'accorde avec nous, alors cette nature meurt. La nature et l'amour du monde meurent et les choses du monde sont mortes. Car si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Un homme doit naître de nouveau. Ainsi, cette nature doit mourir et la nature de Dieu vient et vit en vous. Et Dieu est la seule chose qui n'ait jamais eu de commencement ou qui ne puisse jamais connaître de fin. C'est pourquoi il s'est associé à vous et il a pris cet homme terrestre et cet esprit éternel et les a mis ensemble. En se réfléchissant, Dieu devint homme en Jésus-Christ. Il était Dieu. Dieu était en Christ. Il habita en lui, réconciliant le monde avec lui-même, et par cet homme parfait, chacun de nous qui sommes imparfaits et qui croyons en Dieu, et l'avons accepté, devenons parfaits en lui. Il n'a jamais laissé son corps voir la corruption, ni son âme au séjour des morts, mais il l'a ressuscité au troisième jour, et il est vivant à jamais. Et nous aurons encore comme son propre corps glorifié. C'est pourquoi nous sommes baptisés dans son nom, afin que nous puissions apparaître dans son nom, dans sa mort, dans sa résurrection, nous permettant ainsi de nous relever, de témoigner au monde que nous avons une nouvelle vie et que le vieil homme est mort, et que nous avons enterré cette première nature. Cette première nature a disparu, et maintenant nous avons sa nature. Il vit en nous, et nous ne faisons pas notre propre volonté, nous faisons sa volonté. Nous ne formulons pas nos propres pensées, l'esprit est ce qui pense. La pensée qui était en Jésus-Christ est dans chaque croyant. Il y a l'âme, et c'est ce dont nous parlons. C'est la partie à laquelle je pense maintenant, ce qui se trouve en nous, l'âme. Si nous faisons attention à ceci, parfois beaucoup de choses arrivent, et nous nous demandons pourquoi elles arrivent. Nous nous posons des questions. Et nous en questionnons d'autres, mais finalement, nous découvrons que si nous sommes des chrétiens, tout concourt à notre bien. Vous avez vu cela, tous les chrétiens voient cela. Nous nous demandons pourquoi nous l'avons fait. Je me suis demandé une fois, que j'ai lu pour la première fois la Bible, pourquoi Dieu a-t-il laissé Abraham, ce grand homme, être là et dire que Sarah n'était pas sa femme. Elle le laissait mentir à ce sujet et faire les choses qu'il a faites. Et aussi, pourquoi a-t-il laissé Abraham quitter la terre promise alors qu'il lui avait dit de ne pas le faire? N'importe quel juif qui quitte la terre promise est rétrograde parce que Dieu l'a leur donné, elle leur a fait promettre d'y rester, mais ils la quittèrent. Ainsi, il alla à Guérar. Mais s'il n'y avait pas eu ce, alors le roi Abimélec, là-bas dans ce pays des Philistins, tomba amoureux de Sarah et voulut l'épouser. C'était un homme bon et droit. Après avoir probablement, ceci paraît ridicule, mais c'est pour le rendre plus vivant pour vous, après qu'il eut pris son bain du soir, enfilé son pyjama, fait sa prière et qu'il soit allé au lit, le Seigneur lui apparut et lui dit, « Tu ne vaux pas plus qu'un homme mort. » Pourtant, il n'avait rien fait. Il avait été entièrement trompé, à la fois par Abraham et Sarah. C'est vrai. Dieu lui dit, « Tu es la femme d'un autre homme. » Et je n'entendrai pas ta prière. Peu importe combien tu pries, tu ne vaux pas plus qu'un mort, car cet homme est mon prophète. C'est difficile de comprendre cela, mais si ce n'était pas ainsi, nous ne saurions pas ce qu'est la grâce. Pourquoi est-il parti et a-t-il épousé Agar, alors qu'il avait une femme si charmante en Sarah? Il ne le voulait pas, mais c'est Sarah qui lui dit de le faire. Et ensuite, le Seigneur lui dit, « Tu écoutes ce que Sarah te dit. Pourquoi? Il devait y avoir un Ismaël pour que l'esclave et son enfant n'héritent pas avec la femme libre et son enfant. » Voyez-vous ce que je veux dire? Toutes ces choses sont des types. Pourquoi ce prophète dut-il épouser une prostituée, ayant des enfants, et avoir des enfants d'elle? C'était un signe. Pourquoi l'un d'eux s'est-il couché sur le côté droit pendant 340 jours, et ensuite sur le côté gauche pendant un certain nombre de jours encore? C'était un signe. Un autre enleva ses habits et marcha devant Israël. Toutes ces choses étaient des types et des ombres, voyez-vous? Ces choses sont là pour notre instruction. Souvent, elles nous arrivent, et nous nous demandons pourquoi. C'est Dieu nous montrant quelque chose d'avance. Quand j'étais un petit garçon, vous connaissez le récit de ma vie? J'ai toujours cru, aussi loin que remontent mes souvenirs, une des premières choses dont je me souvienne. Maintenant ceci, hier vous m'avez peut-être dit quelque chose et aujourd'hui je l'ai déjà oublié. Mais il y a des choses qui sont arrivées de nos jeunes années, beaucoup d'entre nous sont ainsi, dont nous nous souvenons toujours, et cela paraît presque ridicule de le dire. Mais je me souviens que j'ai la quatre pattes, avec une longue robe. Certains de vous qui avaient mon âge se souviendront que les bébés portaient de très longues robes. Et je me souviens, quand j'allais à quatre pattes, que je faisais tomber la neige des pieds de mon oncle et que je la mangeais. Quand il entrait, se tenait près de la cheminée. La chose suivante dont je me souviens dans ma vie, c'est d'une vision. La première que j'ai eue me disait que je passerais une grande partie de ma vie près d'une ville appelée New Albany. J'étais là-bas un petit bébé de la montagne et il n'y avait même pas de médecin à ma naissance. Et j'ai vécu ici environ 50 ans. Une vision. J'ai toujours su qu'il y avait un Dieu quelque part. Et alors que j'étais un petit garçon, il m'a parlé et m'a dit de ne jamais fumer ou boire ni souiller mon corps, c'est-à-dire de mener une vie immorale avec des femmes. J'ai toujours eu peur de cela. J'étais alors un jeune homme. Une fois, j'étais en train de chasser, ce qui semble être une deuxième nature chez moi, l'amour de la chasse. J'étais parti chasser avec un garçon du nom de Jim Poole. C'était un jeune homme aimable. Je pense que son fils vient ici à l'église, le petit Jim. C'est une gentille famille. Je connais les Poole. Jim et moi avons dormi ensemble, vécu ensemble depuis que nous étions des petits garçons à l'école. Nous avons environ 6 mois de différence. Et Jimmy laissa un coup partir de son fusil de chasse et me tira ainsi dans les jambes à bout portant. Je fus emmené à l'hôpital et j'étais couché là, à la mort. Il n'y avait pas de pénicilline, ni rien d'autre en ce temps-là. On avait mis un drap de caoutchouc sous moi et je sus cette nuit-là qu'on allait m'opérer le lendemain matin. Ils nettoyèrent simplement la plaie, les gros morceaux de chair déchiquetés, ils prirent des ciseaux et ils coupèrent cela. Pendant cette intervention, j'ai dû tenir les mains d'un homme, Frankie Hay, c'est son nom, s'est suicidé récemment. Elle dut arracher de force mes mains de ses poignets quand ils eurent terminé. J'ai crié et pleuré en me cramponnant comme cela, alors qu'il coupait ses lambeaux de chair de ma jambe. J'avais 14 ans, je n'étais qu'un garçon, et cette nuit-là, j'essayais de m'endormir. Et dès que je me réveillais subitement, quelque chose gicla. Il y avait du sang partout, environ 2 litres. Je pense qu'il était sorti de mes veines. Après avoir pris une radiographie, ils avaient dit que le coup avait passé si près de l'artère de chaque côté qu'une simple petite égratignure la percerait et que je commencerais à saigner. Eh bien, pensais-je, ma fin est arrivée. Je posais mes mains comme ceci et les relevais, et le sang coulait le long de mes bras. J'étais couché dans mon propre sang. J'appuyais sur la sonnette. L'infirmière arriva et l'absorba simplement avec des linges, parce qu'on ne pouvait rien faire d'autre. Et le matin suivant, dans cet état de faiblesse, on ne faisait pas de transfusion sanguine en ce temps-là, vous savez, on m'opéra. On me fit respirer de l'éther, et quand je pense que vous vous en souvenez, c'est un ancien anesthésique. Et avec cet éther que je suis revenu à moi, c'était 8 heures plus tard. Ils durent m'en administrer une forte dose parce qu'ils pensèrent que je ne me réveillerais pas. Elle ne pouvait pas me réveiller. Je me souviens que Madame Roder était près de moi là-bas à l'hôpital. Je n'oublierai jamais cette dame. Quoi qu'il advienne, je ne pourrai jamais l'oublier. C'était alors une jeune femme. Son mari était surveillant ici à la fabrique de voitures. Et je me souviens qu'elle se tenait près de moi, elle et Madame Stewart. En fait, ce sont elles qui ont payé ma facture d'hôpital. À la maison, nous n'avions même pas de quoi manger. Ainsi, comment aurions-nous pu encore payer une facture d'hôpital de plusieurs centaines de dollars? Mais elle, par l'entremise du centre social de son église et le Ku Klux Klan, a payé la facture d'hôpital, les francs-maçons. Je ne pourrai jamais l'oublier. Peu importe ce qu'ils font, il y a quelque chose qui reste gravé dans mon cœur. C'est ce qu'ils ont fait pour moi en payant la facture du docteur Reder. Il vit toujours ici à Fortville et il peut vous raconter l'histoire. Lorsque les effets de l'éther eurent cessé, quelque chose m'arriva. J'ai toujours cru que c'était une vision, parce que j'étais si faible. Ils pensèrent que j'allais mourir. La dame pleurait. Que j'ouvris les yeux, je l'entendis parler, et ensuite, je me rendormis. Je me suis réveillé 2 ou 3 fois. J'eus alors une vision, et environ 7 mois plus tard, je dus retourner pour que l'on extrait de mes jambes de la bourre de fusil de chasse et des parcelles d'abyssal et graisseux que le docteur n'avait pas enlevées. J'avais un empoisonnement du sang. Les 2 jambes avaient enflé et étaient repliées sous moi. Elle voulait m'amputer les 2 jambes à la hauteur de la hanche. Et je dis, non, venez simplement un peu plus haut et qu'on n'en parle plus. Oh, je ne pouvais plus le supporter. Ainsi, finalement, le docteur Reader et le docteur Pearl de Louisville opérèrent, ouvrirent et en ressortirent ces corps d'étrangers. Et aujourd'hui, j'ai de merveilleuses jambes par la grâce de Dieu. Mais dans la dernière vision que j'eus, lors de la première vision, alors que je revenais doucement à moi, subitement, j'entrais dans une condition d'inconscience. Je pensais que j'étais dans un enfer, aussi clairement, très bien, que quelqu'un lui impose les mains et conduisait là à l'air. Que n'importe, que m'importe quelle personne qui se trouve là-bas, qu'elle lui impose les mains. Prions. Bien-aimé Seigneur Jésus, puisse notre sœur qui est malade ce matin et qui s'est évanouie dans la salle, que ta grâce, ta force et ta puissance, on lui a maintenant imposé les mains en ton nom. Et l'Écriture dit, ces signes suivront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Et maintenant, puisse notre sœur se remettre de ce malaise, être guérie pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons et nous te la remettons. Amen. Maintenant, conduisez-la à l'air. Il fait terriblement chaud, terriblement lourd. Je peux le sentir ici. C'est très, très mauvais. Il y a comme un sentiment de défaillance ici sur l'estrade. Je l'ai senti 4 ou 5 fois. Aussitôt qu'elle se sentira un peu mieux, mettez-la à un endroit d'où elle puisse aller à l'air. Très bien. Il fait terriblement lourd, vous savez, les êtres humains fabriquent chacun de nous un certain nombre de mètres carrés de germes de maladie. Si quelqu'un a de l'eau ou quelque chose à mettre sur la sœur, maintenant, elle va mieux. Peut-être que si vous pouviez ouvrir les portes ou donner juste un peu d'air, autant que possible, d'une façon ou d'une autre. Bon, quand j'ai eu cette vision, je pensais que j'avais passé de cette vie dans les tourments, et 7 mois plus tard, ici au Clark County Memorial Hospital, j'ai eu la 2e opération. Et cette fois-là, quand je revins à moi, je pensais que je me trouvais dans l'Ouest. J'ai eu une autre vision. Il y avait une grande croix dorée dans les cieux, et la gloire de Dieu se déversait de cette croix. J'étais debout, les mains étendues comme ceci, et cette gloire tombait dans ma poitrine. Et la vision, c'est ça. Mon père était là qui me regardait quand la vision survint. J'ai toujours senti. Tous les gens qui m'ont connu pendant toutes ces années savent que je voulais toujours aller dans l'Ouest. Vous savez comme c'est. Il y a toujours eu quelque chose concernant l'Ouest. Mais parce qu'un astrologue m'avait dit une fois que je devrais aller dans l'Ouest, expliquant que les étoiles, quand elles traversent leur cycle, etc., j'étais né sous un certain signe. Elle disait que je n'aurais jamais de succès dans l'Est et que je devrais aller dans l'Ouest. Et l'année dernière, je suis parti pour l'Ouest, accomplir ce qui avait été mon désir ma vie durant. Pourquoi je suis là-bas? C'est la chose apparemment la plus ridicule. Être là-bas dans le désert, devoir payer $110 de location, alors qu'ici une maison, un presbytère m'est fourni. Mais c'est suivre le Seigneur, c'est tout ce que je sais faire. Et vous connaissez les visions, et ce qui est arrivé là-bas. Je désire maintenant dire, si notre sœur se sent un peu faible, frère Roy, si vous voulez la conduire dehors et la mettre dans une pièce ici où elle peut avoir plus d'air, ce sera parfaitement en ordre. Parce que j'ai l'impression que tout ira bien pour elle. Elle est simplement défaillante, malade. Ainsi, si vous voulez la conduire ici à l'air, levez ses fenêtres, frère Roy. Si la sœur veut passer par là, tout sera bien. Si elle veut venir ici, je veux lui imposer les mains quand elle passera. Veuillez tous m'excuser une minute. Père Céleste, c'est ta fille qui est ici ce matin. Elle est venue pour entendre le message et Satan essaie de l'en empêcher, mais il ne le peut pas. Il est vaincu car nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Vous parlez de lourdeur. Vous devriez aller dans certains de ces endroits outre-mer, où on les entasse les uns sous les autres avec de la lèpre et du cancer, et oh là là, vous pouvez à peine reprendre votre souffle. Vous savez, et on trouve des choses comme cela dans ces grands bâtiments contaminés de maladies. Et vous savez ce qu'est la lèpre. Ils sont là sans oreilles, la moitié du visage rongé, sans bras, de petits moignons à la place de pieds, et des choses semblables, couchés les uns sur les autres, et beaucoup en train de mourir, étendus là pour avoir été serrés les uns contre les autres, afin d'essayer d'entrer quelque part pour entendre le message. Maintenant, pour en revenir à ceci, je veux vous dire ce qui est arrivé. De la vision que j'ai eue, je reviendrai en arrière, parce que j'ai mentionné les 2 visions pour vous montrer que dans l'une d'elles, je devais aller dans l'Ouest. Je l'ai toujours désiré. Maintenant, le but du message ce matin, c'est de mettre l'Église au courant de tout ce qui me permettra de dire, au mieux de ma connaissance, jusqu'à au fur et à mesure. Et ceci m'a frappé. C'est pourquoi je voulais mettre l'Église au courant. Maintenant, ceci est destiné seulement à ce tabernacle. Dans cette vision, la première, voici ce qui est arrivé. Après que la vision m'ait frappé, alors que j'étais si faible et que j'avais perdu tout ce sang, je pensais que j'étais en train de m'enfoncer dans une éternité sans fin. Beaucoup de vous m'ont entendu dire ceci auparavant. Je m'enfonçais dans une éternité sans fin. Premièrement, je traversais comme des nuages, et ensuite des ténèbres, et je descendais toujours plus bas, plus bas, plus bas, et tout à coup, j'entrais dans les régions des perdus. Et là, je criais et je regardais, et il n'y avait pas de fondation à cela. Dans ce lieu, je ne pouvais jamais m'arrêter de tomber. Pour l'éternité, il semblait que j'allais tomber, sans qu'il n'y ait nulle part d'arrêt possible. Oh, quelle différence avec la vision que j'ai eue ici il n'y a pas longtemps, lorsque je me trouvais dans la gloire avec les gens. Quel contraste! Mais là, alors que je tombais, je me suis mis finalement à crier en appelant « mon papa ». Bien sûr, n'étant qu'un enfant, c'est ce que je fis. J'appelais mon papa, et mon papa n'était pas là. J'appelais ma maman. Que quelqu'un me retienne. Il n'y avait là pas de mère. Je ne faisais que descendre. Et ensuite, j'ai crié à Dieu. Il n'y avait là point de Dieu. Il n'y avait là rien. Plus tard, j'entendis le son le plus lugubre que j'ai jamais entendu. Oh, j'ai eu l'impression la plus horrible. Il n'y a pas moyen. Même un feu authentique sera un plaisir à côté de ceci. Or, ces visions n'ont jamais été fausses. Et ce fut une des impressions les plus horribles que j'ai jamais eues, et j'entendis un bruit comme celui d'un lieu hanté. Et à ce moment-là, je vis venir des femmes. Elles avaient du machin vert. Vous pouviez juste voir leur visage. Elles avaient du machin vert autour des yeux. Et leurs yeux se prolongeaient par un long trait, comme les femmes aujourd'hui qui se maquillent le visage. Elles faisaient « Oh là là, j'ai crié, « Oh Dieu, sois miséricordieux envers moi, sois miséricordieux, oh Dieu, où es-tu? Si seulement tu me laisses retourner vivre, je te promets d'être un bon garçon. » C'est la seule chose que je pouvais dire. Et maintenant Dieu le sait, et au jour du jugement, il me jugera pour cette déclaration. C'est ce que j'ai dit, « Seigneur Dieu, laisse-moi retourner, et je te promets d'être un bon garçon. » Quand j'ai reçu ce coup de fusil, j'avais dit des mensonges, j'avais fait presque tout ce qui peut être fait. La seule chose que je puisse dire, je ferais tout aussi bien de le dire pendant que je suis ici maintenant. Et quand je regardais, et que je vis que j'étais presque à moitié coupé en deux, je dis, « Oh Dieu, sois miséricordieux envers moi, tu sais que je n'ai jamais commis adultère. » C'est la seule chose que je pouvais dire à Dieu, mais je n'avais jamais accepté son pardon et toutes ces choses, je pouvais simplement dire, « Je n'ai jamais commis adultère. » Et ensuite, elles m'emmenèrent là-bas, et là je criais, « Oh Dieu, sois miséricordieux envers moi, je serai un bon garçon, si seulement tu me laisses retourner. » Car je savais qu'il y avait un Dieu quelque part, et ainsi, aide-moi. J'étais entouré de ces créatures obsédantes. Je n'étais qu'un nouveau venu, l'impression la plus hideuse, horrible, impie, que vous puissiez imaginer. Cela ressemblait à de grands yeux, de grands cils, ressortant comme cela, dessinés comme ceux d'un chat, se prolongeant comme ceci, et du verre comme si cela était ulcéré. Elle faisait Oh, quelle impression! Maintenant quand quelques instants plus tard, j'étais revenu à la vie naturelle. Cette chose m'a profondément troublé. Je pensais, oh, puissais-je ne jamais aller dans un endroit pareil? Qu'aucun être humain n'est jamais allé dans un endroit comme celui-là. 7 mois plus tard, j'eus la vision que je me trouvais dans l'ouest, là où je vis cette croix en or descendre sur moi. Et je sus qu'il y avait quelque part la région des damnés. Je n'y ai jamais fait très attention jusqu'à il y a de cela 4 semaines environ. Ma femme, je n'y avais jamais pensé de cette manière. Il y a environ 4 semaines, ma femme et moi sommes allés faire quelques emplettes à Tucson. Et pendant que nous étions assis, nous étions entrés au rez-de-chaussée. Il y avait là une bande de ces garçons efféminés, aux cheveux longs et bouriffés, vous savez, comme se coiffent les femmes, les cheveux tombant sur leur visage, elles portaient des pantalons très longs à la façon des beatniks, comme vous les appelez. Elles étaient là, tout le monde les regardait, et leurs têtes étaient grosses comme les femmes qui ont ces sortes de coiffures boules, vous savez, elles étaient là. Une jeune femme dit en passant, « Que pensez-vous ? » Je répondis, « Eh bien, vous devriez aussi avoir honte de vous-même. » Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ils ont autant le droit de le faire que vous. D'ailleurs, aucun de vous n'en avait le droit. Ainsi, je suis monté à l'étage supérieur. Je me suis assis et il y avait là un escalier roulant que les gens utilisaient pour aller plus haut. C'était chez Penny. Je suis vraiment devenu malade en regardant ces femmes monter, des jeunes, des vieilles, indifférentes, ridées, jeunes et n'importe comment, avec ces tout petits shorts. Leur corps corrompu et ces femmes habillées sexy, avec ces grosses têtes comme cela, elles venaient ainsi. Et l'une monta par l'escalier roulant et arriva près de l'endroit où j'étais assis, la tête inclinée. Et je me retournais pour regarder. La suivante qui arrivait parlait espagnol à une autre. C'était une blanche qui parlait à la femme de langue espagnole. Et alors que je regardais, je fus tout à coup changé. J'avais vu cela auparavant. Ses yeux, vous savez comment les femmes se maquillent les yeux maintenant, comme un chat, vous savez, avec un trait qui monte comme ceci. Elle porte des lunettes en forme d'œil de chat et tout le reste, vous savez, avec des yeux comme ceci, et avec ce machin vert autour des yeux. C'était la vision que j'avais eue quand j'étais un enfant. C'était exactement la même femme. Et mon corps devint comme paralysé. Je commençais à regarder autour de moi, et il y avait ces gens qui marmonnaient, vous savez, en parlant des prix et de différentes choses dans le bâtiment. Il semblait que j'étais changé pour un moment. Je regardais, je pensais, c'est ce que j'ai vu en enfer. Il était de nouveau là, ce chancre. Je pensais que parce qu'elles étaient en enfer, c'est ce qui les rendait ainsi, une couleur vert bleu autour des yeux. Et ici, il y avait ces femmes maquillées avec ce vert bleu, tel que le montrait la vision, il y a environ 40 ans. Cela fait environ 40 ans. J'ai 54 ans et j'en avais 14. Ainsi, il y a environ 40 ans, et de toute manière, c'est le nombre du jugement. Il y avait, j'avais vu cela, et je ne pus même pas parler à ma femme quand elle revient. Elle était allée plus loin pour essayer de trouver pour Sarah et les enfants une robe ou quelque chose comme cela pour aller à l'école. Et je ne pouvais même pas lui parler. Elle dit, Bill, qu'y a-t-il? Je répondis, chérie, je suis presque mort. Elle demanda, qu'y a-t-il? Es-tu malade? Je répondis, non, simplement quelque chose est arrivé. Maintenant encore, elle ne sait rien. Elle attend de recevoir cette bande. Je ne l'ai jamais dit à personne. Et je pensais, j'attendrai, et comme je l'ai promis, je l'apporterai premièrement à l'église. Je l'apporterai à l'église, c'était ma promesse. Et vous réaliserez ce soir la raison pour laquelle j'essaie de garder ma promesse. Je pensais alors, en observant les yeux de ces femmes, qui paraissaient ulcérées, il y avait là l'espagnol représenté, le français, l'indien et le blanc, elles étaient toutes comme réunies là, avec leurs grosses têtes ébouriffées, et des peignes ici et là pour fixer leurs cheveux en arrière, comme elles se coiffent aujourd'hui d'une façon volumineuse. Vous savez comme elles s'arrangent, puis ses yeux paraissant ulcérés sous l'effet du fard, vous savez, remontaient comme des yeux de chat. Elles étaient en train de parler. Tandis que j'étais chez Penny, je me trouvais de nouveau en enfer. J'eus si peur, je pensais, Seigneur, assurément je ne suis pas mort, et après tout, c'est toi qui m'as laissé venir à cet endroit. Et là, tout autour de moi, elle faisait, vous pouviez à peine l'entendre de vos oreilles, vous savez, ce n'était qu'un bruit confus de voix, tandis que ces femmes montaient cet escalier roulant et passaient là. J'entendis ce « et devant moi, je pouvais voir ses grands yeux verts, étranges et lugubres. Ma femme s'approcha et je lui dis, « Laisse-moi seule une minute, chérie. Si cela ne te fait rien, je veux aller à la maison. » Elle demanda, « Es-tu malade ?» Je lui répondis, « Non. Si tu as des emplettes à faire, va simplement les faire. » Elle dit, « Non, j'ai fini. » Et je lui dis, « Laisse-moi te prendre par le bras. » Et je suis sorti. Elle demanda, « Qu'y a-t-il ?» Je lui dis, « Meda, quelque chose est arrivé là-bas. » Et pendant que j'étais sous l'influence de cela, je pensais ceci, quel jour vivons-nous? Ceci pourrait-il être le troisième poule? Maintenant, j'ai quelques notes ici. Jésus, nous voyons que Jésus, dans son ministère, après qu'il eut prêché aux gens, maintenant, nous allons être vraiment scripturaires avec ceci. après que Jésus eut terminé son ministère et que ce ministère eut été rejeté par les gens, maintenant, à vous de lire entre les lignes et d'en tirer vos propres conclusions. Souvenez-vous ce que j'ai dit premièrement. Après qu'il eut prêché, il est venu comme celui-ci, comme celui qui avait été promis pour ce jour-là. Nous le savons tous. Les Écritures identifièrent Jésus-Christ comme étant le Messie, c'est vrai. Il a été entièrement et fermement confirmé par Dieu et sa parole qu'il était le Messie. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Quelqu'un en doute-t-il? Si c'est le cas, alors vous devriez venir à l'autel, qu'il était le Messie. Il fut clairement identifié comme étant le Messie. Mais après qu'il eut clairement, Dieu l'identifia, comme Pierre l'a dit, le jour de la Pentecôte. Quand il parla au Sanhédrin, environ 4 jours plus tard, il dit, « Jésus de Nazareth, homme approuvé de Dieu auprès de vous, par les miracles et les signes que Dieu a fait par lui, au milieu de vous, comme vous-même en êtes informés, vous l'avez fait mourir par la main des impies, et vous avez crucifié le prince de la vie, que Dieu a ressuscité, et par qui il a montré les choses que vous voyez. Christ a continué à vivre, bien sûr, il est toujours vivant aujourd'hui. Ainsi, après que Jésus fut venu et se fut identifié clairement, Dieu l'identifia. Il prophétisa, et après les jours de sa prophétie, bien qu'il eût été identifié scripturairement, les gens le rejetèrent, c'est vrai. Et il prêcha, après qu'il eut rejeté, là se trouvaient ceux qui pouvaient être sauvés. Souvenez-vous, quand il prêchait, n'importe qui avait la possibilité d'être sauvé. Nous ne les connaissons pas, mais ils sont prédestinés. Il prêcha continuellement. Mais après que les jours de sa prédication, son ministère continua, parce que le dernier groupe auquel il alla prêcher, c'était aux âmes qui étaient en prison et qui ne pouvaient pas être pardonnées. Je le lis clairement ici dans la Bible, dans 2 Pierre. Il alla et prêcha aux âmes qui étaient en prison, ce qu'est l'enfer, enfermé jusqu'au jour du jugement. Parce que voyez-vous, le jugement n'a pas lieu maintenant. Il n'y a pas d'enfer embrasé maintenant. Si quelqu'un vous dit qu'un homme est maintenant dans un enfer embrasé, c'est faux. Un juge sur cette terre est assez juste pour ne jamais condamner un homme avant de l'avoir jugé. Et Dieu ne jettera jamais un homme dans la fournaise ardente avant qu'il soit premièrement condamné par la loi de Dieu. Il a rejeté la miséricorde. Ainsi, voyez-vous, il doit premièrement être jugé devant le grand trône blanc du jugement. Mais maintenant, il est dans un endroit appelé la prison. Comme j'ai eu la vision des deux endroits, par la grâce de Dieu, je ne dis pas ceci pour être sacrilège, et si c'est faux, que Dieu me pardonne, je crois que j'ai été dans les deux endroits. Dans les deux endroits. J'ai vu les racheter, être bénis, et j'ai vu les perdus et l'endroit où ils se trouvent. C'est pourquoi je suis ici, aujourd'hui, en tant que frère, pour vous avertir de fuir ce chemin qui descend. N'allez jamais sur cette route. Vous avez tout pour vivre et pour monter ce chemin béni, où les rachetés jouissent de la paix, où ils ne peuvent pécher, ne peuvent avoir de chagrin. Il n'y a rien, ils sont parfaits. J'ai vu les deux endroits. Je sais quelle est ma responsabilité en faisant une telle déclaration, mais Dieu est mon juge. Je crois solennellement que j'ai vu les deux endroits. Je le crois. Et oh, que personne n'ait l'idée d'entrer une fois dans cette région des perdus. Si vous étiez là avec des fils métalliques brûlants, enfoncés en vous, et que vous soyez tourmentés de toutes sortes de manières, ce sera encore bien loin de ce tourment démoniaque qu'il y a en cet endroit. Ne peut rien avoir, la pensée humaine ne peut concevoir ce qu'est cette région des perdus. Il n'y a pas moyen de l'expliquer. Il n'y a pas moyen non plus d'expliquer ce que sont les régions des bénis. C'est si glorieux. Ceci est si horrible et ceci est si glorieux. Cela va du ridicule au sublime. Ainsi, si quelqu'un m'entend, je deviens vieux. Et je ne sais pas pour combien de temps encore j'en ai. J'aurai bientôt 55 ans. Et je ne sais pas. Selon le cours de la vie, je n'en ai peut-être plus pour beaucoup d'années. Je ne sais pas où cette bande ira, mais que tous ceux qui sont ici et que ceux qui écouteront la bande, où qu'elle aille, n'aillent jamais vers cette région des perdus. Vous ne pouvez pas vous représenter l'enfer comme étant si mauvais. Et quoi que vous fassiez, n'oubliez jamais ceci, que les régions des bénis. Je dirais ceci avec saint Paul, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ou ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, les choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Ainsi arrêtez si vous écoutez la bande, arrêtez l'enregistreur et repentez-vous si vous n'êtes pas sauvé et mettez-vous en ordre avec Dieu. Je dis ceci par une expérience de première main, telle que je le crois dans mon cœur. Et je déclare que si les visions m'ont trompé, que Dieu soit miséricordieux envers moi de faire une telle déclaration. Mais c'est un cœur sincère, sachant qu'aucune de ces visions n'a jamais failli, que je peux dire que je suis allé dans ces deux endroits. Loin de la pensée de quiconque de prendre cette route qui descend. Maintenant Jésus, après qu'il eut terminé son ministère, prêcha à ces âmes qui ne pouvaient jamais être sauvées. La Bible nous le dit. Il alla et prêcha aux âmes qui étaient en prison et qui ne s'étaient pas repenties. Quand la miséricorde leur fut accordée, ils la repoussèrent et maintenant ils attendent le jugement. Oh, quel moment cela dut être! Oh, je souhaiterais pouvoir secouer le monde avec cela, pour le faire voir ce qu'est la réalité. Et Jésus lui-même a dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et comme le Père l'a envoyé prêcher aux vivants, à ceux qui avaient l'espérance, et présenter ensuite le même message à ceux qui n'avaient pas d'espérance, il semble que c'est opportun en ce moment que cela se répète. Parce que l'Esprit de Christ qui habite en nous ne change pas sa nature ou la façon de faire de Dieu. Il doit être le même dans chaque génération. Il doit être le même. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Les ministères doivent être semblables, à tel point qu'il a dit, je vois que certains de vous inscrivent les passages de l'Écriture, Jean 14, 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Voyez-vous, les œuvres, prêcher aux perdus, guérir les malades, et ensuite à ceux pour lesquels il est impossible d'être sauvé. L'œuvre doit continuer de la même manière. Ainsi, ceci a été... Puis-je le dire comme ceci? Le ministère de Jésus-Christ doit être réincarné dans son Église dans ses derniers jours. C'est ce que beaucoup de nous croient. Je le crois avec vous. Je crois ceci. Si ce n'était pas le cas, je ferais quelque chose d'autre, parce qu'après tout, c'est moi qui suis impliqué dans ceci. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, vous êtes inquiet au sujet des gens. Il y a un passage de l'Écriture qui m'a toujours embarrassé, là où il est dit que Moïse put donner à Dieu une meilleure idée que la sienne, jusqu'à ce que je découvre que c'était l'Esprit de Christ en Moïse. Dieu dit, « Moïse, sépare-toi d'eux, je les détruirai tous, et je recommencerai avec toi. » Il dit, « Seigneur !» Il se jeta dans la brèche. Il dit, « Reprends-moi et efface-moi de ton livre. » Son cœur eut compassion de ces gens qui s'étaient rebellés. Et quand un prédicateur qui tient les gens sur son cœur, comment pourrais-je me sentir justifié devant Dieu et envers moi-même si je me retenais de dire quelque chose à des gens que j'aime mieux que moi-même? Comment un homme pourrait-il faire entrer une personne dans l'Église par une poignée de main ou une aspersion ou par un faux baptême et les laisser sous l'influence d'un mensonge, sachant que la Bible est là qui témoigne et affirme néanmoins qu'il aime cette personne. Même si je devais mendier pour vivre, quoi qu'il en soit, laissez-moi être honnête avec Dieu et les gens et leur dire la vérité. Ne me laissez jamais trompeur. Comment pourrais-je tromper ceux que j'aime? Bien que je doive leur faire mal, pourtant je les aime. C'est la raison pour laquelle vous donnez une fessée à vos enfants. C'est parce que vous les aimez. Non pas parce que vous ne les aimez pas, mais parce que vous les aimez. S'ils ont mal agi, ils pourraient être tués si vous ne les corrigez pas. C'était ce que le ministère a été. est aujourd'hui ce qu'il était alors. Il est aujourd'hui ce qu'il était alors. Il était prêché et entièrement confirmé par la parole de Dieu que cela ne pouvait être l'homme, cela devait être Dieu. Cela devait être Dieu lui-même. Remarquez, les mêmes signes spirituels que Jésus a accomplis se sont produits à nouveau sur la terre en ces derniers jours. Le même signe spirituel qu'il identifia comme étant le Messie l'a identifié aujourd'hui. Il est toujours le Messie. Ce sont les mêmes signes matériels qui sont apparus sur la terre que lorsqu'il était la même colonne de feu que celle que saint Paul vit, la même. Et tout cela s'est reproduit ayant la même nature et accomplissant les mêmes choses. Jésus a déclaré qu'il ne faisait rien avant que le Père ne lui montre, et le Père et le Saint-Esprit, nous réalisons cela. C'est simplement un office de Dieu. Si ce n'est pas vrai, alors lequel des deux est le Père de Jésus-Christ? Jésus a dit que Dieu était son Père, et la Bible dit que le Saint-Esprit était son Père. Maintenant, vous ne pouvez pas faire de lui un enfant illégitime. Ainsi, le Saint-Esprit est Dieu. De même, Jésus est Dieu. Ainsi, Père, Fils et Saint-Esprit sont trois offices d'un Dieu unique. Ce sont trois attributs, et le même Dieu. Vous êtes une partie de Dieu, et je suis une partie de Dieu. Mais je ne suis pas entièrement Dieu, et vous non plus. Vous n'êtes pas entièrement Dieu. Ce sont les attributs de Dieu en nous. En tant que Fils adopté par Jésus-Christ, Dieu lui-même devint chair afin de mourir pour nous. Le Saint-Esprit, lui, a toujours montré les choses à venir. Et il ne fut jamais dans l'erreur. Il était toujours parfait. Est-ce vrai? Il ne s'en attribua pas le mérite, il le donna à Dieu. Il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et le Saint-Esprit était son Père. Est-ce vrai? Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. C'était donc là son Père, et le Saint-Esprit montra à Jésus les choses à venir et les choses qui étaient. Il était le Dieu prophète, parce que la parole du Seigneur vient seulement aux prophètes. On voit ainsi que la parole est venue dans une forme inférieure. Les prophètes ont écrit ce que le Seigneur leur dictait, mais lui n'a rien écrit parce qu'il était la parole. Il était la parole. Remarquez, le même Saint-Esprit qui habitait dans lui, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Je viendrai à vous, dit-il. Je, c'était le Père qui était en lui. Il viendra à vous. Et il ajouta, que le Saint-Esprit sera venu sur vous, il vous révélera les choses que je vous ai enseignées, et il vous annoncera les choses à venir. Vous y êtes. Nous remarquons que le Saint-Esprit agit aujourd'hui exactement de la même manière que dans l'Église d'alors. Il annonce par la colonne de feu exactement la même chose qu'au commencement. En le voyant descendre sur Jésus, Jean témoigna de cela au bord du Jourdain. Tout a été prouvé et même des photographies ont été prises. Cela ne peut être contesté. Cela a été prouvé scientifiquement. C'était matériel. Ce n'était pas une pensée mythique. Ce n'était pas de la psychologie. Comme George Lacey l'a dit, l'œil mécanique de cette caméra ne prendra pas de la psychologie. Mais la lumière a frappé effectivement l'objectif. Qu'en est-il de vous qui êtes ici et qui m'avez entendu dire, il y a 6 ou 8 mois, je vais à Tucson, en Arizona, selon le ainsi dit le Seigneur. Il y aura une explosion et 7 anges apparaîtront. Est-ce que vous vous souvenez? Dieu le rendit si réel que le magazine Look en a pris des photographies. Spirituel, vu d'avance, matérialisé. Exactement la même chose. Les 7 anges apportèrent la conclusion de toutes les Écritures, parce que tous les mystères de la Bible entière se trouvent dans les 7 sceaux. Nous savons cela. Le livre est scellé de 7 sceaux. Dans ces 7 sceaux se trouve le mystère entier que le Seigneur a permis que nous apportions. Des hommes ici étaient présents que cela arriva. Le magazine Luke le prouva également, disant que c'était effectivement arrivé, parce que c'est Dieu qui l'avait dit. C'est Dieu qui se tient derrière sa parole pour l'accomplir, quand il a annoncé qu'il le ferait. C'est pourquoi ce n'était pas un homme, une personne charnelle comme moi, qui se tient au milieu de vous, mais c'est le Dieu éternel. Il utilise des hommes, c'est vrai, il ne fait rien en dehors de l'homme. Nous réalisons cela. C'est son agent, c'est lui qui l'a choisi. Pourquoi? Je ne sais pas. Il aurait pu aussi bien faire en sorte que le soleil prêche l'évangile, ou que le vent le fasse. Il aurait pu se servir du vent. Oui, mais il a choisi les hommes. C'était son idée, que l'humain réponde à l'humain, pas lui-même. Mais la parole du Seigneur vient au prophète. Prophète, prédicateur. Et un prophétiseur qui nie la parole originelle, comment peut-il être un véritable prophète? Il ne le peut pas, parce qu'il nie la vérité de la parole. Alors, si cette parole elle-même est prêchée dans toute la vérité de la parole et du Saint-Esprit, elle manifestera chaque promesse qu'il a faite. C'est ainsi que nous savons si c'est juste ou faux. C'est ce que Jésus a dit. Si je n'accomplis pas ce qui est écrit que je ferai, alors ne me croyez pas. Maintenant, nous voyons ces choses. Souvenez-vous que les sept choses sont terminées. Et quand ces sept vérités révélées, l'une d'elles, il ne nous a pas permis de la connaître. Combien était ici lors des sept sceaux? Vous tous, je pense. Le septième sceau, il ne l'a pas permis. Il s'est tenu là dans la pièce et a révélé chacun d'eux. Et si une fois j'ai prêché quelque chose qui était inspiré, c'était bien cela. Vous qui êtes ici, êtes à même de le confirmer. Sachant que je vous ai annoncé d'avance ce qui est arrivé, et qu'après être allé là-bas, la science et tout le reste, la recherche scientifique, c'est un mystère pour les gens, a prouvé que c'était arrivé à cet endroit précis. Et je suis revenu, et vous l'avez entendu, le révéler, rectifier chaque parole exactement. Dans quel jour vivons-nous? Où en sommes-nous? Et souvenez-vous que dans ce sixième sceau, les sept trompettes sonnèrent toutes sous ce sixième sceau. Quand nous arriverons à cela, vous le verrez. Chacune des sept trompettes sonna dans ce sixième sceau. Le nombre sept est toujours un mystère. Observez ce sept. C'est l'achèvement. C'était la venue du Seigneur. Le ciel était serein, silencieux. Personne ne bougea, parce que Jésus lui-même a dit, « Même un ange du ciel ne sait pas que je reviendrai. Je ne le sais pas moi-même. » Le Père, lui, l'a mis dans sa pensée. Dieu seul le sait, l'Esprit. C'est pourquoi je ne le savais pas. Ainsi, cela ne fut pas révélé quand cette septième trompette sonna, quand le septième ange ou le septième sceau fut ouvert. Il y eut simplement un silence dans le ciel. Ce qui arriverait ne fut pas révélé. Mais sous le sixième sceau, quand ces trompettes sonnèrent, souvenez-vous que là, l'agneau s'est avancé et est apparu sur la scène. Il avait quitté le propitiatoire. Son œuvre de rédemption était terminée. Il s'avança et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et il n'y eut plus de temps. Et immédiatement, un ange apparut au chapitre 10, verset 7, disant, cet ange descendit et jura qu'il n'y aurait plus de temps. Mais voyez-vous, dans ce livre se trouvait ce qui était racheté. C'était le livre de la rédemption. Et tout ce qu'il avait racheté était inscrit dans ce livre. Tous ceux pour qui il est mort étaient inscrits dans ce livre. Et ne pouvaient pas quitter son siège de médiateur jusqu'à ce qu'ils aient tous racheté. Ce n'est pas à la croix qu'ils pouvaient les racheter, car ils étaient déjà prédestinés de lire de vie de l'agneau et devaient rester là pour intercéder jusqu'à ce que cette dernière personne soit entrée. Gloire! Mais un jour, il se leva et s'avança. Où était le livre? Il était toujours dans son propriétaire abstrait, le Dieu Tout-Puissant. Et Jean regarda autour de lui et pleura, parce qu'il n'y avait personne de digne pour regarder le livre et ouvrir les sceaux, pour révéler ce qu'était le mystère caché. Les mystères étaient dans les sept sceaux. Quand ces sept sceaux furent ouverts, la Bible entière s'ouvrit. Les sept sceaux étaient scellés par sept mystères, et dans ces sept sceaux était gardé le mystère entier. Et c'était le livre de la rédemption, le Nouveau Testament, pas l'Ancien. Celui-ci a seulement annoncé le Nouveau Testament. Ils ne peuvent pas venir à la perfection sans nous. Hébreux 11. La rédemption est venue seulement à la mort du Rédempteur. Elles étaient potentiellement sous le sang des agneaux et non celui du Rédempteur. Ils n'avaient pas encore été rachetés avant la venue du Rédempteur. Remarquez, maintenant, quand ce Rédempteur, Jean regarda autour de lui, et Dieu était assis sur le trône, tenant dans sa main le livre qui avait été scellé de sept sceaux, et tout le plan de la rédemption se trouvait à l'intérieur, et avait été perdu par la race humaine, Adam. Et Dieu, où est-il retourné? Satan ne pouvait pas le prendre. Il le lui a simplement fait perdre. Mais alors, où le livre est-il allé? Il n'appartenait pas à la race humaine. Les bénédictions n'étaient pas pour ici. La race humaine l'avait perdu. Ainsi, il retourna directement à son propriétaire original. C'était Dieu. Il était ainsi là, le tenant. Et il demanda un homme à quelqu'un de le revendiquer. Jean regardait autour de lui. Il n'y avait aucun homme dans le ciel, aucun homme sur la terre. Personne, aucun ange pour prendre le livre, ouvrir les sceaux ou même le regarder. Aucun homme n'en était digne. Jean dit qu'il pleura amèrement. Puis un ange va vers lui et lui dit, « Jean, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda a vaincu et il est digne. » Et Jean regarda, pensant voir un lion, et que trouva-t-il? Un agneau. Un agneau ensanglanté. Un agneau qui avait été immolé. Depuis quand? Depuis la fondation du monde. L'agneau s'avança et alla vers celui qui avait le livre dans sa main droite et le reçut. Alors il monta sur le trône et s'assit. C'est cela. C'était terminé. Quand? Quand les sceaux furent révélés. Quand le dernier qui était, tout ce qu'il avait racheté, il n'y avait rien, il était venu pour racheter. Vous dites, pourquoi ne les a-t-il pas rachetés il y a 40 ans, il y a 2000 ans? Leur nom était dans le livre de vie, dans ce livre. Elle devait être ici parce que c'était le dessein de Dieu de les racheter. Leurs noms furent placés dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. L'agneau fut aussi placé là pour être immolé. Voici l'agneau qui fut immolé et revenu pour intercéder. Observez-le. Il y aura beaucoup d'imitations, beaucoup de choses, mais quelqu'un allait être sauvé car l'Église était prédestinée. Sans tache ni ride, elle sera là-bas et l'agneau mourut à cette fin. Alors que le dernier nom inscrit dans ce livre fut racheté, l'agneau s'avança, prit le livre et dit, « Je suis celui qui l'a fait. » Les anges, les chérubins, les 24 vieillards, les êtres vivants, tous enlevèrent leur couronne, tombèrent devant le trône et dirent, « Tu es digne. » Jean dit, « Tout ce qui vit dans le ciel et sur la terre m'ont dit crier, Amen, criant des Alléluia et des louanges à Dieu. » Le cri monta. Pourquoi? Leur nom était dans ce livre, prêt à être révélé, et l'agneau les avait révélés. L'agneau les avait rachetés, mais ils ne pouvaient pas s'avancer avant que chaque nom soit révélé. Et cela est arrivé sous ce sixième sceau, avant que le septième s'ouvrit. Alors l'agneau vint pour ceux qu'il avait rachetés. Il est venu pour réclamer ce qu'il avait racheté. Il l'a déjà fait, ici dans le livre. Il l'a déjà écrit dans le livre qu'il a pris de sa main. Maintenant, il vient recevoir ceux qu'il a rachetés. C'est l'œuvre qu'il a accomplie. Il est venu pour les recevoir. Oh, quel moment! Et cela a été prouvé. Le septième sceau l'a prouvé. Il est revenu et a pris le livre de la rédemption. Remarquez, c'était le message du septième ange qui devait révéler les sept sceaux. Apocalypse 17, vous le trouverez là. Elle vit cet ange descendre, poser son pied sur la terre, sur la mer. C'était Christ. Il avait un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Observez-le, vous le retrouverez dans Apocalypse 4 avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoise. Il est venu, a mis un pied sur la terre, un autre sur l'eau, et a levé la main. Il avait encore un arc-en-ciel au-dessus de la tête, autour de la tête. C'était le signe d'une alliance. Il était l'ange de l'alliance. Et c'était Christ, créé à peine inférieur aux anges pour souffrir. Il est venu à lever les mains vers le ciel et à jurer par celui qui vit au siècle des siècles, celui qui est éternel, le Père Dieu, qu'il n'y aurait plus de temps quand ceci arriverait. C'est terminé, c'est fait, c'est fini. Et ensuite l'Écriture dit qu'au message du septième ange terrestre, le messager sur la terre, le septième et dernier ange de l'Église, au commencement de son ministère sur la terre, À ce moment-là, le mystère de Dieu de ces sept sceaux devrait être révélé. Maintenant, nous voyons, nous en sommes. Serait-ce possible, mes amis? Serait-ce possible? Remarquez, c'est tout à fait possible. Il s'avança pour la rédemption de ceux qui avaient été inscrits dans le livre. Tous ceux qui devaient être rachetés étaient mentionnés dans le livre, prédestinés avant la fondation du monde et venus afin de les racheter. Tous ceux qui l'avaient racheté y étaient inscrits. Je veux maintenant vous poser une question. Et vous qui écoutez la bande, écoutez attentivement. Ces yeux hideux, cette tête hideuse, serait-ce la raison pour laquelle ce message a été à tel point contre les femmes de l'âge moderne? Ceci serait-il le message du dernier ange? Qu'a-t-il dit là-bas à la rivière il y a environ 33 ans? Comme Jean fut envoyé, voyez-vous, pour annoncer la première venue de Christ, ton message annoncera la seconde venue. Autour du monde, et c'est ce qu'il a fait. Alors sa venue doit être proche. Observez ce qui arrive maintenant. Pourquoi? Je me suis gratté la tête, je me suis retourné sur mon oreiller, je me suis promené dans la pièce, me disant, que se passe-t-il avec toi? Il y a quelques jours, j'ai demandé à deux hommes avec lesquels j'étais en voiture une fois, j'ai demandé à Jack Moore, vous connaissez Jack Moore, je vais parfois chez lui à Shreveport, je lui ai dit, frère Jack, vous avez été l'un de mes amis les plus intimes sur la terre. Mais avant de lui poser la question, je la pose à ma femme. S'il est quelqu'un qui sait quelque chose à mon sujet et qui connaît mes mauvais côtés et tout le reste, c'est bien ma femme. C'est une gentille personne. Un jour, je lui dis, chérie, en tant que ton mari, en tant que ministre de l'Évangile, je ne veux pas apporter l'opprobre sur celui que j'aime. Je ne veux pas te faire de mal. Je ne voudrais pas apporter de l'opprobre sur toi. Que Dieu me garde en tout temps de faire quelque chose qui te ferait du mal. À combien plus forte raison cela ferait du mal à Dieu? Combien je l'aime? Tu es mon épouse. Il est mon sauveur et mon Dieu. Je veux te poser une question. Ne me cache rien. Dis-moi la vérité. Je lui dis, ai-je étudié à tel point? Et je me suis demandé, je suis bizarre, étrange, je le sais. Et tout le monde de penser, quel genre de personne est-ce? Eh bien, voyez-vous, vous ne pouvez pas vous faire vous-même. Vous êtes ce que vous êtes par la grâce de Dieu. Et je dis, ai-je un peu perdu l'esprit, vous savez? Et suis-je devenu un peu, pourquoi suis-je constamment en train de condamner ces femmes, alors que je les aime? On dit que je suis misogyne, que je déteste les femmes. C'est faux. J'aime les femmes. Je veux dire, en tant que mes sœurs, je ne vais pas vous taper sur l'épaule que je vois que vous êtes dans l'erreur. Laissez-moi vous le dire, je vous aime trop pour agir ainsi. Un homme qui le ferait aurait une sorte d'amour différent. Je vous aime pour ce que vous êtes. Vous êtes l'aide d'un fils de Dieu, et vous êtes une partie de lui. Et je vous aime parce que vous avez été créé à l'image de l'homme, et que l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi ensemble, vous êtes un en Christ. C'est pourquoi je vous aime. Tout le reste ne vaut rien. Dieu le sait. Toute ma vie, c'est vrai, je vous aime. Pourquoi viendrais-je, dirais-je constamment, quand ils disent, dites à toutes les femmes qui ont l'intention de venir écouter prêcher frère Branham de se coiffer différemment. Mettez un chapeau ou quelque chose d'autre, parce qu'il va commencer à vociférer contre les cheveux courts. Et abstenez-vous de mettre du maquillage. C'est ce qu'ils firent, pensant, oh, il s'en prendra quelqu'un, et l'un d'entre eux me dit, pourquoi ne faites-vous pas? Les gens croient que vous êtes un prophète. Pourquoi n'enseignez-vous pas aux femmes comment recevoir de grands dons spirituels et des choses comme cela au lieu de leur enseigner de telles histoires? Je répondis, si elles ne veulent pas apprendre leur ABC, comment sauront-elles l'algèbre? Mettez-vous premièrement en ordre, et plus je prêche, plus cela va mal. Alors vous dites, pourquoi n'arrêtez-vous pas? Non, monsieur, il doit y avoir une voix, un témoignage qui s'oppose à cela. Un des plus grands hommes dans le ministère aujourd'hui a posé ses mains sur moi il n'y a pas longtemps et m'a dit, je vais prier pour vous, frère Branham, si vous permettez, pour que Dieu enlève cela de votre cœur, et qu'ainsi vous laissiez ces femmes tranquilles. Je répondis, monsieur, croyez-vous cela, vous qui êtes un prédicateur de la sainteté? Et il répondit, certainement je n'y crois pas, mais c'est l'affaire. Je dis, non. Il dit, c'est l'affaire des pasteurs. Je répondis, ils ne le font pas. Quelqu'un doit donc le faire. La rivière doit être traversée. La pelure doit être enlevée. Je ne voudrais pas avoir à le faire. Dieu sait bien que je n'ai pas le désir de le faire. Pourtant, beaucoup de ces femmes pourvoient au besoin de mes enfants. Elles donneraient presque leur vie pour moi. Pensez-vous qu'avec la grâce de Dieu répondu abondamment par le Saint-Esprit, je pourrais rester tranquille, envoyer une pauvre âme sans espérance, aller se jeter dans l'éternité, sans crier la contre de toutes mes forces? Ce n'est pas pour être plus malin que les autres, mais l'esprit de cette nation, l'esprit de l'Église, pas l'esprit de Christ, l'esprit de l'Église, de la dénomination, a jeté ces femmes dans cette saleté là-bas, et lui dit seulement une voix qui crie, sortez de là! Fuyez cette corruption! Ne laissez pas le diable vous faire une de telles choses, c'est faux! Et vous, assemblée de Dieu, vous laissez ces femmes couper leurs cheveux, alors que vous leur interdisez de porter du maquillage. En fait, il n'y a pas d'écriture qui traite du maquillage, elle interdise, mais bien par contre sur le fait de couper vos cheveux. Elle n'est même pas digne de prier devant Dieu, dit la Bible. Son mari a le droit de divorcer avec elle et de la quitter, c'est vrai. Elle s'affiche aux yeux du monde comme une femme impure. La Bible dit, elle déshonore son mari, et quand elle le fait, c'est exactement ce que la Bible dit. Une femme portant du maquillage, dans la Bible, nous en voyons une qui se maquillait, seulement une. C'était Jézabel. C'était elle. La seule personne dans la Bible qui ait jamais porté du maquillage était Jézabel, et Dieu l'a immédiatement donné à manger aux chiens sauvages. Elle déshonora son peuple par sa conduite. Tout ce qui est vil est appelé Jézabel. Vous n'avez pas à l'imiter. Vous n'avez pas à le faire. Alors, qu'est-ce qui vous fait agir ainsi? L'esprit du diable. Vous ne le réalisez pas. Je sais que non. Vous êtes des gens trop bons. Vous êtes bons. Vous me serrez la main, vous me parlez, je vous aime, c'est vrai. Mais si je vois cela et ne dis rien, ne serais-je pas un hypocrite? Paul a dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Puisque sans aucune femme naître sous moi ce jour-là, ou celui d'aucun homme, je vous ai dit la vérité. J'ai détesté le faire, pas détesté dans le sens que je ne peux pas faire ce que Dieu me dicte, mais vous aimant, je ne voudrais pas vous blesser, ainsi que vais-je faire? Mais un pur amour divin vous obligera à le faire. Jésus a même prié pour éviter la croix. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non parce que ce que je veux, mais ce que tu veux. Devrais-je être l'homme qui prononce de telles paroles? Devrais-je prendre ces femmes si gentilles, ces précieuses âmes et les réduire en morceaux? Devrais-je prendre mes frères dans le ministère et leur dire qu'ils aiment l'argent et les dénominations plus qu'ils n'aiment Dieu? Moi, à mes chers frères qui mettent leurs bras, oh, dois-je faire cela? Oh Dieu, que je n'ai pas à le faire. Néanmoins, je vous annonce tout le conseil de Dieu sans rien vous cacher. C'est l'amour authentique qui m'y a conduit. Est-ce la raison pour laquelle ce message a été ce qu'il est, comme nulle part ailleurs dans le monde? N'est-ce pas? Où cela se trouve-t-il? Très bien. Ils ont peur. Mais cela a été apporté sans crainte. Exactement. Dieu est toujours ainsi. Bon. Est-ce la raison pour laquelle les femmes ont été à tel point réprimandées par ce message? Ne sachant pas, cela n'avait pas été révélé. Cela m'avait été montré, mais cela ne m'était pas venu à l'esprit jusqu'à l'autre jour. Regardez. Très bien. Assurément, cela concorde avec le ministère. Maintenant, attendez une minute. Y a-t-il déjà une période, une époque où la femme ait joué un tel rôle? Oui, selon l'histoire du temps d'Élie. Il y a une femme appelée Jézabel. Elle prit autorité sur l'Église de Dieu, situation qui, selon la Bible, doit se répéter dans les derniers jours. Le même esprit se manifestant au travers d'une Église, d'une organisation. Elle sera une prostituée, et toutes les autres Églises avec elle seront des prostituées. Est-ce vrai? Apocalypse 17 dit, elle est une prostituée, elle est la mère des prostituées. Cela ne peut pas être des hommes, ce sont des femmes. Elles seront toutes jetées vivantes dans le lac de feu. Est consumé. Est-ce vrai? Vous y êtes. Remarquez. Quand cette Jézabel apparut sur la scène, un homme s'éleva la contre. Dieu suscita un homme. Nous ne savons même pas d'où il venait. Il n'avait pas d'antécédent dans son ministère. Il ne fut jamais sacrificateur ou autre. Il est apparu comme un vieil homme des bois, rude, du nom d'Élie. Et parce qu'il mit la cognée à la racine de l'arbre, tous la haïrent. Non seulement ceci, mais sa congrégation entière le haït. Il en arriva à penser qu'il était seul de son côté. Mais Dieu lui dit, non, j'en ai encore 7000 qui sont entièrement avec toi. C'était ce groupe élu. C'est toujours ce groupe. Il dit, ne crains pas, Élie. Je sais que tu penses être un bout de force parce que toutes les dénominations t'ont fait fuir au sommet de la colline. Mais j'en ai 7000 qui croient ce que tu prêches. Je les ai là. Après ce temps, ce fut le tour de Rome. où il arriva à nouveau que la femme occupa une grande place. La mode était axée sur la femme, la façon dont elles devaient porter leur chapeau, etc. Et Dieu en suscita un autre avec le même esprit sur lui, l'esprit d'Élie. Est-ce vrai? Il dit, la cognée est mise dans la racine de l'arbre. Il y avait là une méchante femme qui avait quitté son mari et épousé son frère, Hérode. Cette femme, Hérodias, une fille de cet homme. Puis elle lui enseigna la danse. Elle devint une véritable danseuse de striptease, comme sa mère. Elle pensa qu'elle pouvait se marier 4 ou 5 fois et faire tout ce qu'elle voulait. Et voici qu'Hérode sortit. Maintenant, souvenez-vous qu'ils étaient tous juifs, ils étaient des gens d'église. Un jour, Hérode sortit de son église pour écouter ce prophète. Cet homme que les gens croyaient être un prophète. Jean s'avança au devant du roi de Hérodias et lui dit, « Il ne t'est pas permis d'avoir cette femme. » Oh, qu'est-ce que cela l'a fait exploser. Un homme ordinaire aurait dit, « Comment allez-vous, Hérodias? Nous sommes vraiment très contents de vous avoir dans notre congrégation aujourd'hui. » Mais pas Jean! Jésus dit, « Qu'êtes-vous allé voir quand vous êtes allé vers Jean? Êtes-vous allé voir un homme vêtu comme un sacrificateur? Non, ce jour-là baisse les bébés et enterre les morts. » Il dit, « Qu'êtes-vous allé voir? Un roseau agité par le vent? » Ils peuvent avoir dit, « Viens ici, Jean, nous te paierons davantage si tu prêches pour nous. Nous sommes la plus grande organisation. » Oh, pas Jean. Non, on n'a jamais voulu avoir affaire avec cela. Jésus dit, « Alors, qu'êtes-vous allé voir quand vous êtes allé voir et écouter Jean, un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Si vous pouvez le recevoir, c'est celui dont le prophète annonçait la venue. J'enverrai mon messager devant ma face et préparera le chemin du Seigneur. Il était un messager de l'Alliance. Jésus dit, il n'y a pas eu d'homme, né d'une femme aussi grand que lui. C'est le genre d'homme que Dieu suscita pour ce jour-là. Élie, un homme des bois. Jean de même. Voyez-vous, l'esprit d'Élie était sur Jean. Elle dit que lorsque le jour de la femme réapparaîtrait, le même esprit serait là de nouveau. Que ce serait avant la venue du Seigneur et avant que la terre soit brûlée, et que les justes marchent sur les cendres des méchants, que ceux-ci soient comme des cendres sous leurs pieds. Il a de nouveau promis en ces jours. Remarquez, le Saint-Esprit l'a promis. Cela correspond au temps dans lequel nous vivons. Quelqu'un doit apparaître. Cela doit venir, car c'est ainsi, dit le Seigneur. Malachie chapitre 4. C'est exactement le signe qu'il a annoncé. Juste avant la venue du grand et terrible jour de l'Éternel, je vous enverrai Élie. Et que fera-t-il? Il ramènera le cœur des enfants à la doctrine des pères. À la Bible, toutes ces différences dénominationnelles, et les ramènera à la Bible, il les ramènera à Dieu. C'est ce qu'il fera. Remarquez le moment glorieux dans lequel nous vivons. Ces prophètes, dans leur temps, réprimandèrent ces femmes modernes, et tous deux le payèrent de leur vie. L'histoire atteste que dans chacune de ces époques, la femme domina et eut le contrôle de tout. Regardez ce qui en est aujourd'hui. Ils éliront une présidente un de ces jours. Cela pourrait arriver maintenant. En fait, c'est elle qui préside. Lui n'est qu'un personnage représentatif. Tenez, il n'y a pas longtemps, dans un autre pays, elle reçut tellement de louanges de tout le monde qu'à la fin, le président lui-même déclara, « Je suis son mari, le président des États-Unis. Elle lance la mode, et les femmes la suivent. C'est ainsi qu'agit... Et les femmes la suivent. C'est ainsi qu'agit Jézabel. Vous avez entendu mon sermon sur la religion de Jézabel. Vous savez ce qui en est. Voyez-vous où nous en sommes maintenant. Vous voyez ce qui est arrivé. Il y a une ou deux semaines, ici en ville, le pasteur luthérien a invité le prêtre catholique du Sacré-Cœur à venir prêcher à sa place, et il l'a fait. Puis le pasteur luthérien est allé chez le prêtre catholique et a fait de même. Le conseil des églises se réunit maintenant à Rome. Cette lettre circulaire que mon cher ami David Duplessis, que je me suis trouvé avec lui, que je l'ai imploré à ce sujet, il n'y a pas longtemps à 14 Mile Creek, il ne réalisait pas qu'il avait conduit l'Église tout droit dans Babylone. Tout le monde dit, « Oh, toutes les Églises vont être une maintenant. » Oui, je le sais. C'est exactement ce qui était relevé dans mon livre de prophétie en 1933, où il était prédit que cela arriverait. Mais ne réalisez-vous pas que c'est Satan qui est en train de les réunir? La Bible dit, « Dans quelque temps, dès qu'ils seront devenus un, ce sera la fin de ce qui est interdénominationnel. » Il y aura la marque de la bête. C'est vrai. Je n'ai pas le temps de continuer là-dessus. Il est presque midi moins un quart. Avant de terminer, je voudrais encore traiter de ce point. Je veux simplement apporter ces messages de l'Écriture afin que vous puissiez voir où nous en sommes. Nous allons terminer dans quelques minutes. Maintenant, remarquez ce qui est arrivé. Les prophètes réprimandèrent les femmes de leur temps. Elles furent traitées de misogynes. C'est vrai. L'histoire atteste cela. Maintenant, attendez une minute. Vous qui inscrivez les références, vous pouvez relever 1 Timothée 5:6. La Bible dit, la femme qui vit dans les plaisirs mondains, cela ne peut pas être les plaisirs de Dieu. Ainsi, cela doit être, la femme qui vit dans les plaisirs mondains est morte, quoique vivante. C'est ce que le prophète a dit, Saint Paul. La femme qui vit dans cette condition mondaine est morte, quoique vivante. Si elle rejette la grâce, elle traversera la ligne de séparation, après quoi il n'y a plus de place pour elle. Alors, où en est-elle avec ses yeux fardés et ses cheveux coupés? Elle est de l'autre côté de la ligne, sans possibilité de retour. C'est pourquoi un ministère doit être suscité afin de lui prêcher. Mais souvenez-vous, à ce moment-là, tout est terminé. C'est fini. Elles ne font plus que hanter. Il y aura un ministère qui montrera de grands prodiges, Joël l'a dit, mais il n'y aura plus de temps pour la rédemption. Ce sera entièrement terminé. L'agneau a déjà pris son livre et son œuvre rédemptrice est terminée. De même que Jésus a, après avoir prêché, fut rejeté et alla ensuite visiter ce qui était à cet endroit, prêchant à ceux qui étaient en prison et qui ne pouvaient pas se repentir, qui n'avaient plus de possibilité de salut, ce même ministère devra se répéter. Et si c'était le troisième poule, à ceux qui sont éternellement perdus? Qu'arrivera-t-il si c'est le cas? J'espère que ce n'est pas le cas. Qu'arrivera-t-il si c'est le cas? Maintenant, pensez-y une minute. Et si c'était le cas? Que Dieu nous en préserve. J'ai des enfants. Mais cela n'en paraît assurément pas loin. Pourquoi cette vision est-elle venue quand j'étais garçon? Pourquoi n'y ai-je jamais pensé auparavant? Pourquoi me suis-je trouvé dans cet état particulier en ce lieu l'autre jour? Je me suis dit, le voici, c'est juste au milieu des des âmes qui sont perdues. Et Jésus leur prêcha, leur témoigna, mais ils ne se repentirent jamais. Et plus je prêche, et pire ils deviennent. Il n'y a pas de repentance, elle n'est pas possible. L'agneau prit son livre quand le 7e sceau, il était sur le point d'être ouvert, le 6e sceau. Souvenez-vous qu'il nous a caché le 7e. Il n'a pas voulu le révéler. L'ange s'est tenu là, jour après jour, révélant cela, mais il n'a pas voulu le faire pour celui-là. Il dit, il y eut un silence dans le ciel. Personne ne savait rien. C'était la venue du Seigneur. Oh, vous dites, ce n'est pas possible. J'espère que non. Allons un peu plus loin, j'ai quelque chose à noter. Très bien, souvenez-vous, celle qui vit dans les plaisirs mondains, qui aime les choses du monde et agit comme lui, bien que fréquentant l'Église et agissant comme une sainte, ça n'a rien à voir avec cela. Elle est morte, quoique vivante. Regardez ce que les dénominations ont fait d'elle. Ils en ont fait une manipulatrice de la Sainte Parole, ce qui est contraire à la Bible. Ils ont fait d'elle un prédicateur. C'est interdit par les Écritures. Ils ont même fait d'elle, maintenant, un dirigeant, un maire, un gouverneur, etc., dans le pays, est ministre dans la maison de Dieu, alors qu'elle est coupable de tous les péchés qui ont été commis. Elle en est la cause. Je ne parle pas. Elle est coupable. Elle est la cause de chaque bébé qui naît aveugle. Elle est la cause de chaque tombe qui est creusée. Elle est la cause du péché, de la maladie, de la tristesse. Une ambulance ne peut klaxonner sans qu'une femme en soit la cause. Ni les pleurs, ni le péché, ni la mort, ni la tristesse, ni la souffrance ne peuvent arriver sans que la femme en soit la cause. Et Dieu lui a interdit de monter la chair pour prêcher. et pourtant elles le font. Les dénominations, voyez-vous où ça en est arrivé? Elle est devenue une déesse. Comment le diable, combien le diable est à l'œuvre? Pourquoi les catholiques font-ils de ces femmes des dieux? Elle leur adresse-t-il des prières? C'est bien ainsi, la déesse Marie, etc. J'ai appris que dans le conseil œcuménique, on a dit que le jour viendrait où ils prieraient un peu plus Jésus, si cela pouvait aider les protestants à entrer. Oh, ce même enrobé de sucre! Toujours le même vieux démon. La Bible dit qu'il fit en sorte que tous ceux dont les noms n'étaient pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau reçoivent une marque sur leur front. C'est à l'église prédestinée que je parle. Pas à ceux du dehors. Non, monsieur, de chaque groupe, il a retiré ses prédestinés. C'est pour cela qu'il vient dans chaque âge. Elle se tient là, elle est là. C'est elle. Elle prêche la parole, elle manipule la parole, elle devient une déesse, elle a cause de chaque péché. La Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité. Soyez soumise, comme le dit aussi la loi. Elle ne veut pas le faire, mais on fait d'elle un dirigeant du pays, un maire, un gouverneur. Bientôt, elle sera présidente. C'est sûr. Vous y êtes. C'est ainsi que cela se passe. Et les gens font cela parce qu'ils ne prennent pas en considération cette parole. Ils ne le verront jamais. Regardez ces juifs qui étaient là. C'étaient des érudits, des hommes distingués. Mais Jésus leur dit, vous êtes de votre père le diable. Par exemple, je voudrais vous montrer quelque chose. Juste une minute, et que Dieu me pardonne de prendre position contre lui. Mais je voudrais vous montrer quelque chose. Si vous disiez, eh bien, gloire à Dieu, j'ai parlé en langue. Alléluia, je sais que je l'ai reçu, Dieu soit béni. Qu'est-ce que vous avez fait? Souvenez-vous du peuple d'Israël. La Bible dit qu'après l'avoir appelé à sortir et qu'il les eut sauvés d'Égypte, il les détruisit parce qu'ils ne suivirent pas le message. Pourtant, ils avaient mangé de la manne venant du ciel. Ils avaient mangé de la manne que Dieu fit pleuvoir sur la terre et qu'il leur donna comme nourriture. Ils se tinrent en présence du messager. Ils virent la colonne de feu. Ils entendirent la voix de Dieu. Et ils en virent la confirmation. Mais parce qu'ils préférèrent croire Corée, il leur disait, il peut y avoir davantage de saints, il peut y avoir ceci ou cela, nous pouvons aussi être saints, nous pouvons tous faire ceci, tout le peuple est saint. Mais Dieu dit, séparez-vous, éloignez-vous de cet endroit. Moïse dit, que tous ceux qui sont du côté de l'Éternel viennent avec moi. C'est vrai, voyez-vous, et il entrouvait la terre et les engloutit. C'était aussi de bonnes gens. Assurément, c'était des gens bien. Oui, monsieur, mais cela n'était pas suffisant. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Ce n'est pas celui qui commence, mais c'est celui qui finit. Il n'y a pas de moyen de prendre un raccourci. Vous seriez alors disqualifié à la fin de la course. Non, il n'y a pas de raccourci. Vous devez venir tel que l'exige l'Écriture. Si elle dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit, il n'y a pas de raccourci possible. Ce n'est pas par une poignée de main et en joignant une église dénominationnelle, mais en venant de cette manière. À moins de mourir à vous-même et d'être né de l'Esprit de Dieu, vous êtes perdu, c'est tout. Il n'y a pas de raccourci. Vous dites, oh, j'appartiens à l'Église. Je sais, c'est bien. Ma mère, je n'en doute pas. Mais c'est de vous que je parle. Vous devez venir de cette manière, parce qu'il n'y a pas de raccourci possible, sans quoi vous serez disqualifié au jour du jugement. Vous devez venir par un seul chemin. Il n'y a qu'un chemin et Christ est ce chemin. Christ est la parole qui vit en nous, confirmant tout ce qu'il a promis en sa saison. L'avez-vous compris? Très bien. Remarquez. Maintenant, certains disent, ces gens sont bons, assurément. Je ne dis pas que ce ne sont pas de bonnes gens. Je ne dis pas que Sainte Cécile et les autres n'étaient pas des femmes bonnes. Ma mère l'était aussi. Mais assurément, je ne lui adresse pas de prière. Certainement pas. J'ai vu beaucoup de personnes bonnes, mais elles ne sont pas pour autant des déesses, ce sont des femmes. Il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et les hommes. Pourquoi? Pourquoi un homme, un pentecôtiste mondialement connu? Vous vous souvenez de cette lettre circulaire de frère Duplessis, notre cher frère. Peut-être que certains de vous en ont une copie. Il s'est assis dans le conseil œcuménique à côté du pape. Il a dit que c'était très spirituel. C'est du discernement d'esprit, n'est-ce pas? Oh, l'esprit du Seigneur était là. Très spirituel. Vous y êtes. Pourquoi? Parce que c'est là une occasion de rallier les protestants à leur cause. C'est ce que nous avons combattu pendant des années. La Bible a soutenu, a prédit que cela arriverait. Un de nos plus grands dirigeants a déclaré, c'est vrai, c'est ce que nous faisons. Et l'Église protestante entière s'y laisse prendre. Exactement, si vous regardez, c'est ainsi dit le Seigneur. Premièrement, la parole l'a dit, puis l'Esprit du Seigneur a parlé en 1933 de toutes ces choses, des nations qui allaient entrer en guerre, du genre de machine qu'il y aurait, etc. C'est exactement ce qui devait arriver à la fin. Et le voici sous nos yeux. Cela n'a jamais failli. Nous voyons tout cela se concrétiser maintenant. Vous vous souvenez du sermon que j'ai prêché il n'y a pas longtemps sur la religion de Jézabel? Vous vous souvenez d'Élie qui descendait la route ce matin-là pour leur dire « J'ai prêché là-dessus et j'ai prédit que le temps viendrait où ce conseil œcuménique deviendrait finalement la marque de la bête, parce qu'il s'unira à la bête. » C'est ce qu'il est en train de faire. Dans mon âge, j'ai pu suivre tout cela et voir les protestants des millions à la fois s'y laisser prendre. Pourquoi? C'est ce qu'ils recherchent. Ils sont aveugles. Jésus dit à des pharisiens, vous êtes aveugles et des conducteurs d'aveugles. Il ajouta, si un aveugle conduit un aveugle, ne tombera-t-il pas tous deux dans une fosse? Et c'est là qu'il tombe. Comment est-ce possible qu'un homme qui a été avec moi, qui a parlé avec moi, puisse faire une telle remarque? Voyez-vous, c'est caché aux yeux des sages et des intelligents et c'est révélé aux enfants qui sont prêts à apprendre. Je sais qu'un jour cela me coûtera la vie, c'est vrai, cela arrivera. Mais ici, la vérité est connue. Le premier à mourir pour ce plan du Saint-Esprit, ce fut Jean-Baptiste, mais il ne s'est pas développé, il est mort comme un homme. Puis vint le Seigneur Jésus, ils le crucifièrent, il prêcha que l'Esprit sauverait l'homme du péché. Est-ce vrai? Ensuite, il lapidèrent Étienne, qui prêchait contre le péché, il les rendit tellement furieux qu'ils lui écrasèrent la tête. Mais il est mort dans l'Esprit, il rendit l'Esprit, et alla rejoindre d'autres près de cette haute dispensateur de la vie. Il y a Pierre et Paul et Jean le divin. Ils donnèrent leur vie pour que l'évangile puisse briller. Que firent-ils? Ils mêlèrent leur sang à celui des prophètes du passé, afin que la véritable parole de Dieu puisse être réellement annoncée. Les âmes sous l'autel criaient jusqu'à quand? Pour que le Seigneur punisse tous ceux qui avaient mal agi, mais il y en aura encore qui donneront leur sang. Oui, c'est vrai, pour cet évangile du Saint-Esprit et son flot écarlate. Il continue à ruisseler le sang. Oui, un jour cela arrivera, mais j'attends cette heure où tout sera fini. Une sœur vient d'avoir un songe. Elle m'en a fait part dans une lettre, disant, je les ai vus. J'ai vu cette église chercher le moyen de me tuer secrètement. Un jour, quand je sortirai de ma voiture et que j'entrerai, on me tirera dessus. Mais, dit-elle, puis l'Esprit ajouta, pas maintenant, mais cela viendra plus tard. Que Dieu me garde d'établir des compromis sur quoi que ce soit. Je ne connais rien si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous vivons à une époque terrible. C'est le résultat du péché. Oui. Ils lapidèrent Étienne. Ils firent couper la tête de Jean. Elle le fit. Je ne sais pas comment nous donnerons la nôtre, mais cela arrivera un jour. Très bien. Remarquez. Dans Saint Jean, si vous voulez connaître le passage qui s'y réfère, c'est dans Jean 6, 49, où il est dit qu'ils mangèrent de la manne, et Jésus ajouta, « Ils sont tous morts. » Vous dites, « Eh bien, j'ai vu cette femme danser dans l'esprit. » Oh oui. Mm-hmm. Je les ai vus faire cela. Je les ai vus parler en langue. Je l'ai vu. Oh, oui, Jésus a dit, beaucoup viendront à moi ce jour-là, diront, j'ai fait toutes ces choses. Ils ont mangé de la manne dans le désert, mais Jésus ajouta, elles sont tous séparées pour l'éternité. Ils sont tous morts, séparés pour l'éternité. Ils périrent là dans le désert. Vous vous souvenez d'Hébreux chapitre 6, au sujet de ceux qui, une fois, entendirent la vérité et refusèrent d'y marcher, il n'y a plus de repentance possible. Voyez-vous, lorsqu'une personne limitrophe, quand la vérité lui est présentée pour la dernière fois et qu'elle refuse de la recevoir, selon le livre des Hébreux, il n'y a vraiment plus rien au monde qui puisse jamais la sauver. Ils sont finis. Plus de repentance possible, de rédemption, plus d'espérance pour eux. Ils sont séparés pour l'éternité. La Bible dit, il ne reste plus qu'une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Et quand la vérité de l'Évangile a été prouvée, pleinement confirmé, et qu'ensuite ils font demi-tour et s'en éloignent, alors c'est fini pour eux, c'est tout. C'est terrible, mais je dois le dire. Souvenez-vous des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné cet endroit et sont dans cette prison, dans ces ténèbres dans lesquelles le monde marche aujourd'hui, dans cette même prison, il n'y a pas de repentance possible. Souvenez-vous, j'ai dit il y a quelques années, en revenant de Chicago, soit la mérite, le recevra cette année, ou elle ne le recevra pas du tout. Voyez-vous où elle en est? Maintenant, je me demande si cela pourrait être le troisième poule. Oh Dieu, puisse cela en être éloigné. Le troisième poule est-il destiné à cela? Serait-ce possible? Maintenant, pensez-y, mes amis. Pensez-y, je n'aime pas à y penser. Jésus a dit, ce genre d'hypocrisie, si vous voulez l'inscrire, c'est Matthieu 23, 7. Je vais ici lire cela. Mais vous pouvez voir qu'il est dit, vous, pharisiens aveugles, avez-vous une minute? Cherchons cet endroit parce que j'ai noté de le lire. Il y avait là quelque chose que je voulais lire juste avant. Je laisserai plutôt autre chose de côté, mais étudions ce passage une minute. Matthieu 23. Juste une minute. Très bien. Et nous commencerons au verset 27. Maintenant, écoutez. Vous pourrez lire le tout à la maison si vous le voulez. Encore quelques minutes. Maintenant, regardez ici. Matthieu 23 et commençons au verset 27. Malheur à vous, scribes. Maintenant, souvenez-vous que c'est à des de saints hommes qu'il parle. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, ce sont des morts. Des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. En eux, il y a de l'hypocrisie, de l'envie, des conflits. À l'extérieur, je suis le docteur Intel. Vous, de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Regardez le conseil œcuménique et les pentecôtistes qui s'y trouvent. Mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? Quelque chose que vous savez effectivement être juste et que vous ne faites pas. Jésus, maintenant, observez sur quelle génération il place cela. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Voyez-vous? Ah, les prophètes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Nous aurions cru la parole du Seigneur si nous avions vécu en ce temps-là. Observez, vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. C'est exactement ce qui est en train d'arriver. Maintenant, observez ce qu'il dit ici. Serpent. Race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Comment pouvez-vous le faire? Maintenant, il parle à des prédicateurs. C'est vrai, à des hommes saints. Comment pouvez-vous rester comme vous êtes, sachant que la Bible prédit et a averti les gens de ne pas agir ainsi, et vous restez là et établissez des compromis pour quelques infects dollars, ou par esprit de popularité, heureux qu'on vous tape sur l'épaule en vous appelant docteur? Comment pouvez-vous dire que vous aimez ces gens? Je presse aussi sur les bandes. Comment pouvez-vous dire que vous aimez ces gens en laissant une telle chose arriver? Vous, pharisiens aveugles, vous, serpents, vous, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la gêne quand vous, comment un homme, aujourd'hui, qui sait que ces choses sont fausses, comment peut-il demeurer au milieu de sa congrégation sans dire la vérité aux femmes et aux hommes? Pour que sa dénomination puisse continuer à grandir. Comment échapperez-vous au châtiment de la gêne préparé pour vous? Comment allez-vous le faire? Écoutez, écoutez ceci. Que cela va-t-il devenir? C'est pourquoi, verset 34, voici je vous envoie les prophètes. Je vous les enverrai dans les temps à venir. Voilà de nouveau aux pharisiens. Des sages et des scribes, vous tuerez, vous crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. Il a prédit qu'il leur enverrait des prophètes avec la parole du Seigneur. Et qu'il leur ferait quoi? La même chose que leur père, parce que c'est ce que vous êtes. Les esprits ne meurent pas. Les hommes qui en sont possédés meurent. Mais les esprits, eux, ne meurent pas. Il leur dit aussi, vous êtes les enfants, vous êtes ceux-là. Et regardez comment vont ces choses. Regardez comment saint Paul, croyez-vous qu'il est un prophète? Il condamna les femmes qui se coupaient les cheveux. Condamna leur organisation. Annonça que tout homme qui n'était pas baptisé au nom de Jésus-Christ devait venir être baptisé à nouveau. C'est vrai. Aujourd'hui, ils établissent des compromis, cherchant à adoucir cela. En vérité, ils ne savent rien d'autre. C'est pitoyable. Si l'heure est passée, je dirais ceci. ils étaient aveugles, prédestinés à être aveugles. Oh Dieu, sois miséricordieux. Ils ne pouvaient pas le voir. Jésus a dit, vous êtes aveugles, vous, scribes et pharisiens, aveugles, hypocrites. Alors que vous lisez la même parole que tous les autres, vous osez venir me condamner? Je suis exactement ce que la parole a annoncé pour ce jour. Je devais être le messager de ce jour. Je suis le Messie. Il a dit de tellement de façons différentes. Je suis le Messie. Ne l'ai-je pas prouvé? Si je ne l'ai pas fait, si je n'ai pas fait ce qui est écrit à mon sujet, alors condamnez-moi. Mais vous, pharisiens aveugles, vous conduisez vos gens dans une telle chose et vous les envoyez tous. Et l'ajouta, eh bien, l'aveugle conduit l'aveugle. Vous dites, oh, si nous avions vécu du temps de saint Paul, j'aurais pris parti pour lui. Hypocrite que vous êtes. Pourquoi ne prenez-vous pas parti pour sa doctrine? Vous auriez agi de la même manière que maintenant, car vous êtes des enfants de vos pères. De vos pères des organisations, les pharisiens, les sadducéens et les propres justes. C'est cela. Et je vous dis, à l'heure dans laquelle nous vivons, je me demande si ceci pourrait être le troisième poule. Une minute maintenant. Jésus a dit, cette catégorie reçoit un plus grand châtiment. N'est-ce pas terrible? C'est comme ce grand Américain. Une fois, alors que l'ennemi était sur le point de prendre ce pays, il y a un homme qui, aux environs de minuit, sauta sur un cheval et descendu la route en criant, « L'ennemi arrive !» C'était Paul Revere. Je suis aussi américain, et je ne viens pas à minuit en disant, « L'ennemi arrive, mais il est ici. » Il n'arrive pas, il est déjà ici. Il a déjà conquis. Je crains que ce soit fini. Il est en train de s'en emparer. À cette heure-ci, minuit. Vous souvenez-vous à Tucson des sept anges et ce qu'était le message, la fin du mystère de Dieu. Et immédiatement après cela, descendant la chaîne, vous avez tous entendu parler des montagnes. Remarquez. Frère Fred en a des photographies, de même que frère Tom et moi, j'ai aussi un bout de film. Je pense qu'un jour, nous vous montrerons ici l'endroit où ça se trouvait. Vous connaissez tous l'histoire. Observez les trois pics. Il dit, il y a ici ton premier, ton deuxième et troisième. Et frère Fred en a une remarquable photographie. Lui et sœur Martha passèrent là, la brume s'élevant du sol avait caché tous les autres pics pour ne laisser apparaître que ceux qui représentaient les trois poules. Un ici et un là. Les sept, observez. Les trois premiers pics, trois à la perfection, représentent le début du ministère. Le deuxième poule était le discernement des esprits, la prophétie. Premièrement, c'était la guérison des malades. Le deuxième poule était la prophétie qui permettait de connaître les pensées secrètes du cœur, quand la parole elle-même fut manifestée, ce qui est la grâce. Mais souvenez-vous que le septième est l'achèvement. Ceci pourrait-il être le poule final? C'est alors complètement terminé. Serait-ce possible? Pensez-y maintenant. Pensez où vous en êtes. Sept est toujours l'achèvement. Trois poules. Le mystère de Jésus consista en trois poules. Le saviez-vous? Remarquez. Soyez maintenant sincères comme jamais dans votre vie, pendant quelques minutes. Son premier poule fut la guérison des malades. Il devint alors un homme très populaire. Tout le monde le croyait, semble-t-il. Est-ce vrai? Quand il partit guérir les malades, tout le monde le voulait dans son église. Mais un jour, il fait demi-tour et commença à prophétiser, car il était la parole. Et il était le prophète dont Moïse avait parlé. Mais quand il les réprimanda pour leur façon de vivre et les choses qu'ils faisaient, il devint très impopulaire. Ce fut son deuxième poule. Je me demande si cela ne s'est pas produit à nouveau. Pensez-y une minute. Serait-ce possible? Le premier, guérir tout le monde. Le deuxième, oh, cela pourrait être Jésus seul, cela pourrait être Belzébul, cela pourrait être, ils firent là la même chose. Les mêmes esprits vivant dans les mêmes sortes de gens condamna les gens qui ne pouvaient jamais être sauvés parce qu'ils étaient condamnés avant, comme Judas Iscariote qui était né le fils de perdition. Vous dites, Judas, c'est sûr, souvenez-vous qu'il était très religieux, mais il ne sut pas aller jusqu'au bout avec le message. Il peut en prendre une partie, mais le reste, il n'arrivera pas à le digérer. Ils peuvent saisir la guérison et des choses comme cela, Mais quand il s'agit de Dieu qui crée des écureuils par sa parole, c'est trop profond pour eux. Ça ne se peut pas. C'était Judas. Son esprit peut vivre jusqu'à ce point, mais il ne peut pas aller plus loin. Ils purent bien accepter Moïse, quand il ouvrit la mer rouge, etc. Mais quand il s'est agi de leur dire que tous les autres ne devaient pas faire ceci ou cela, dire, il se prend pour Dieu au-dessus de nous. Ils ne pouvaient pas aller seuls. Qu'auraient les autres, ainsi ils voulurent avoir une organisation, et Dieu les engloutit. Le ministère de Jésus, quand il guérissait les malades, était si merveilleux. Pensez, ce jeune prophète de Galilée, il redonna vue aux aveugles, il a même ressuscité les morts. Nous avons trois cas où il a effectivement ressuscité les morts. Mais un jour, il se retourna et dit, « Vous, race vipère, vous nettoyez le dehors du plat, vous avez l'apparence de saint, mais au-dedans de vous, vous n'êtes rien d'autre qu'un tas de serpents. » Oh, quand cette prophétie se fit entendre, condamnant cette organisation, alors cela changea. Ils se retournèrent contre lui. C'est vrai. Et finalement, après l'avoir rejeté, ils le crucifièrent. Mais vous ne pouvez pas tuer le ministère. Il continue à vivre. Vous pouvez endormir le messager, mais vous ne pouvez pas arrêter le message. C'est vrai. Il continue à vivre. Et remarquez, quand le troisième poule de son ministère arriva, le premier était la guérison des malades. Le deuxième fut de condamner leurs organisations et de prophétiser sur ce qu'ils avaient fait, sur ce qu'ils étaient et sur ce qui allait arriver. C'est ce qu'il y avait eu, c'est ce qu'il y avait et c'est ce qu'il y aurait. C'est ce qu'il fit, est-ce vrai? Mais son troisième poule fut quand il prêcha aux perdus qui ne pouvaient plus être sauvés. Ils étaient là-bas où il y avait ses grands yeux fardés. Il prêcha aux âmes en enfer qu'ils n'avaient pas accepté la miséricorde, mais qui étaient éternellement séparés de la présence de Dieu. Pourtant, il dut reconnaître ce qu'il était parce que Dieu le plaça là. Je me demande si son ministère évolue de la même manière dans ces derniers jours. Ce qui arriva, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Perdus ne pourront jamais être sauvés. Ils avaient rejeté la grâce. Ce fut son troisième poule. Maintenant, y a-t-il une question? De son premier poule, il guérit les malades. Est-ce vrai? De son second ministère, il prophétisa. De son troisième ministère, il prêcha à ceux qui sont éternellement perdus. Les trois montagnes, etc. Les perdus pour l'éternité. Le ministère de Noé, tous les ministères se manifestent de la même manière. Noé prêcha, c'est exact. Il entra dans l'arche, puis il y eut 7 jours pendant lesquels rien arriva. Par son témoignage, il prêcha ainsi aux condamnés. Sodome et Gomorre, Jésus se référa aux deux en disant, « Avant l'avènement du Fils de l'homme, ce sera pareil à ce qui arriva au jour de Noé et de Sodome. » Ainsi, il fait allusion à Noé. Noé eut 3 poules. Et son troisième fut pour les perdus après que la porte eût été fermée. Car Dieu le laissa là où personne ne pouvait ni entrer ni sortir. Ils étaient à l'intérieur pour, sur la 7e montagne. Sur la plus élevée, c'est là qu'il déposa l'arche. Est-ce vrai? Du temps de Sodome, le premier poule fut Lot le juste. La Bible dit, les péchés de Sodome tourmentaient journellement son âme juste. La façon dont les femmes agissaient. Souvenez-vous, ce qui arriva du temps de Noé, que faisait-il? Il mangeait, buvait, se mariait, donnait en mariage les femmes. Voyez-vous? Les femmes. Que n'était-il du temps de Sodome? Encore les femmes. C'est alors que Lot représenta pour eux ce premier message, mais ils se moquèrent de lui. Puis il envoya un autre messager, 2 plutôt. Elles allèrent là-bas. Ce fut son 2e poule pour Sodome. Mais regardez celui qui alla à la fin. Que la miséricorde de Dieu qui se prolongeait prit fin, alors tout fut terminé à ce moment-là. Le troisième messager qui alla là-bas, le troisième poule, qu'était-il? Quel genre de message avait-il? Il s'assit avec les élus. Elle leur dit ce qui se passait derrière lui. Est-ce vrai? Mais quand il entra dans Babylone ou dans Sodome, il voulut trouver. Même Abraham cria, « Si je pouvais trouver 50 justes, et dû descendre jusqu'à 10 justes. » Dieu dit, « Oui, trouve-en 10. Laissez-moi vous dire quelque chose, sœur, une minute. Vous êtes peut-être démodé, mais vous avez quelque chose que ces reines du sexe n'ont pas. Vous avez quelque chose qu'elles ne peuvent jamais avoir. Votre habillement est peut-être démodé, mais vous vous êtes habillé comme une dame. Ils diront peut-être, regardez cette fille exaltée. Ne vous en inquiétez pas. Elle a quelque chose que cette espèce de reine du sexe qui capte tous les regards du monde n'a pas. Elle ne pourra jamais la voir. Elle est perdue pour l'éternité. Elle est condamnée. Voyez-vous, vous avez une moralité. Vous avez de la vertu. Elle n'a rien. Elle est un appât qui capture les âmes perdues et les conduit en enfer. L'aveugle marche là-dedans. Mais vous, vous avez quelque chose. Vous savez que vous n'êtes pas dans un livre d'église, mais c'est peut-être votre vie juste qui retient la colère de Dieu sur le monde d'aujourd'hui. Le monde ne le croira pas. Vous, femmes, qui êtes appelées des exaltées, et vous, hommes, qui avez peu de connaissances, vous qui croyez à Dieu, qui criez à Dieu jour et nuit pour les péchés du pays, peut-être êtes-vous celui ou celle qui retient la colère. Si je peux en trouver 10, je l'épargnerai. Si j'en trouve 10, ce qui arrivera du temps de Sodome arrivera pareillement. Voyez-vous ce que je veux dire? Pas si je peux trouver 10 méthodistes, si je peux trouver 10 baptistes, si je peux trouver 10 pentecôtistes, si je peux trouver 10 athlètes, si je peux trouver 10 sénateurs, si je peux trouver 10 prédicateurs, mais si je peux trouver 10 justes, il y a un juste, c'est Christ. Si Christ vit dans un séquice, je l'épargnerai. Mais ce dernier messager prêcha aux condamnés. Il y a là, l'Écriture ne dit pas ce qui arriva, mais le feu tomba le matin suivant, c'est vrai. Après qu'il eut accompli ses signes, immédiatement après qu'il eut rempli son ministère prophétique, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Elle répondit, je n'ai pas ri. Il dit, si tu l'as fait. Immédiatement après cela, il entra dans Babylone ou alla à Sodome. Il ne les trouva pas. Alors le feu tomba. Il trouva Lot et ses deux filles. Elle lui dit d'en sortir immédiatement. Et Lot sortit. Il alla là-bas. Souvenez-vous qu'il était en route pour y aller. Il avait envoyé des messagers devant lui. Mais il y alla lui-même pour regarder si tout était ainsi. Et la trouva pleine de quoi? De femmes au visage fardé. Le message aux condamnés. Que firent-ils? Ils se moquèrent de cela. Que font-ils aujourd'hui? La même chose. J'appartiens aux assemblées, j'appartiens aux unitaires, j'ai dansé dans l'esprit, gloire à Dieu, je parle en... Continuez. Je couperai mes cheveux si je veux. Je ferai ceci, je ferai ceci. Je n'ai pas besoin d'être baptisé au nom de Jésus. Peu m'importe ce qu'ils disent. Pour les doutes, de toute façon, vieux misogyne. Très bien, continuez. En 6 jours, si ce n'est pas déjà le cas, vous traverserez cette ligne de démarcation. Vous n'aurez plus jamais le désir de faire ce qui est juste. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? C'est l'affaire. Frères et sœurs, réalisez-vous ce qui a été dit? Vous traverserez cette ligne et vous ne pourrez plus jamais le faire. Vous ne voudrez plus jamais le faire. Vous continuerez à entendre l'Évangile, assurément, mais vous ne l'accepterez jamais. Vous ne pouvez jamais l'accepter, mais l'Évangile sera prêché aux condamnés, à ceux qui sont perdus pour l'éternité et qui ne peuvent plus jamais être sauvés. Vous en êtes déjà à ce point et vous ne le savez pas. Vous vivez dans les plaisirs, pourtant vous êtes morts, quoique vivants. Écoutez, tous ceux qui rejetèrent le message de l'heure avant le jugement, l'Évangile fut prêché premièrement aux condamnés, avant qu'ils partent loin de la grâce. Noé se tut, c'était un témoignage. Dieu ferma la porte. Après son troisième poule, après le troisième poule de Sodome, les portes furent fermées. Il n'y eut plus de grâce. Les 10 ne purent être trouvés. Alors l'Évangile fut prêché aux perdus, qui ne pouvaient point sauver parce que c'était... Cela fut ainsi dans chaque âge. Chaque âge a rejeté le message avant le jugement. L'ont-ils fait de nouveau? Est-ce à l'apparition de cette colonne de feu là-bas sur la rivière? Est-ce la première fois que le message met les femmes en charpie, remet les choses en place et réprimande ces prédicateurs qui se rangent du côté de la dénomination au lieu de rester avec la parole, alors que Dieu a parfaitement confirmé que c'est lui et non pas une chose pauvre, ignorante et lettrée comme un homme? C'est Dieu! Et sommes-nous maintenant arrivés au point où le troisième poule va retourner à ceux qui sont perdus pour l'éternité? Est-ce la signification de cette vision que je reçus là-bas, alors que je n'étais qu'un jeune garçon? Je suis allé dans l'ouest et il y eut la croix dorée de l'Évangile qui brilla, et manifesta exactement le signe dans le ciel. Souvenez-vous que la croix s'élevait aussi dans le ciel comme une pyramide. Serait-ce possible que cela soit la partie de la terre qui vient s'ajuster? De même que la pyramide s'élève à travers Luther, Wesley, la Pentecôte et ce qui, jusqu'à la pose de la pierre fêtière? Serait-ce cela? Si c'est le cas, où en sommes-nous? Ceci pourrait, j'espère que non, mais cela doit arriver. Cela doit arriver. Rappelez-vous que ces ministères doivent toujours s'accorder parfaitement les uns avec les autres. Cela doit arriver. Dieu ne change pas. Pensez-y. Mordez votre conscience avec vos dons spirituels. Et regardez où nous en sommes. Et si c'était le cas, et que vous soyez toujours tel que vous êtes, alors vous pouvez tout aussi bien, vous êtes fini. Pour ceux qui sont dehors, après que le livre a été pris par l'agneau et le sixième sceau révélé, ainsi que tous les sceaux, c'est terminé pour eux. Cela se pourrait, j'espère que non, mais cela se pourrait. Très bien. Est-ce la raison pour laquelle ce troisième poule s'est tellement prolongé? Si vous remarquez, le premier poule et le deuxième poule allèrent de l'un à l'autre. Je prédis ceci, vous en souvenez? C'est quand j'en étais à mes débuts. Dans le premier poule, je dis, le temps viendra, je discernerai même les pensées du cœur. Vous vous souvenez? Combien, vous tous, vous vous souvenez de mes réunions? Et un soir là-bas, à Regina, alors que je venais de monter sur l'estrade, frère Baxler, étant là, ainsi que plusieurs milliers de personnes, un homme monta sur l'estrade et cette chose est arrivée. Et ça a continué à se produire depuis ce moment-là. Mais cela fait des années que je suis sorti du champ missionnaire. Environ 5 ans. Qu'est-ce qui a produit ceci? Est-ce pour la même raison qu'au commencement, quand, dans la Genèse, quand la patience de Dieu se prolongeait? Souvenez-vous, quand il créa le monde, le 7e jour, il ne fit rien. Il se reposa. Dieu fut patient pendant cette 6e année. Il ne voulait qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dieu fut patient. De nouveau, dans Genèse 15-16, si vous voulez l'inscrire, 15-16, il dit à Abraham, dans ce pays des Amoréens, que leur iniquité, c'était des gentils. Je ne peux pas t'y emmener tout de suite, parce que l'iniquité des Amoréens, des gentils, n'est pas encore à son comble. Mais je les jugerai. Je viendrai dans cette 4e génération, et alors je jugerai cette nation avec une verge de fer. Est-ce vrai? Cela a-t-il duré si longtemps que finalement la patience de Dieu? Le ministère a sans interruption ratissé le monde par les bombes magnétiques et tout le reste, pour voir s'il n'avait encore un. Mais peut-être que le dernier vient-il de rentrer. Est-ce l'iniquité qui a duré si longtemps? Si Jésus est le même, ce qu'il est, Hébreux 13:8, son message doit être le même. Nous allons terminer. Sa façon d'agir doit être la même. Si le premier et le deuxième poule sont clairs, il y a-t-il encore une question dans votre esprit au sujet du premier et du deuxième poule? Est arrivé exactement comme il l'a dit? Alors pourquoi douter du troisième? Pourquoi douteriez-vous? Les deux premiers ont été identifiés par l'Écriture. Je vous ai prouvé ce matin que le troisième est aussi identifié par l'Écriture. Considérez le monde et voyez où il en est. Regardez la manière dont ils ont rejeté la vérité et comment cela a été clairement identifié, la partie prophétique. Maintenant, où en sommes-nous? Oh Dieu, sois miséricordieux. Cela fait saigner mon cœur profondément. Qu'en est-il de cela? Où en sommes-nous? Souvenez-vous de ces 7 pics là-bas. Il pourrait vous le dire. Il n'y a pas d'autres pics après cela. Et c'est sur la ligne de partage des eaux continentales. De là, ça va dans les déserts. L'éternité commence. 7 pics, juste sur la ligne de partage des eaux continentales. C'est juste entre le vrai et le faux. Et au bout de cela, le troisième poule était le dernier poule de la chaîne. Est-ce vrai? Très bien. Noé entra, puis pendant 7 jours, rien n'arriva. Mais après 7 jours, le jugement vint. Si seulement, écoutez maintenant pour terminer. Si du temps de Noé, ils avaient seulement reconnu le signe. S'ils avaient seulement reconnu. Maintenant, je vais terminer. S'ils avaient seulement reconnu ce signe, le monde de ce temps-là, Dieu a prouvé ici par la lecture des Écritures il y a quelques instants qu'il détruisit ces gens. Non sans avoir usé de miséricorde, la miséricorde leur fut envoyée par un prophète. Ils ne voulurent pas le croire. Dieu est miséricordieux. Il envoya la miséricorde, mais ils ne voulurent pas la recevoir. Il commence toujours par envoyer la miséricorde. Que serait-il arrivé s'ils avaient reconnu que ce signe était le signe des derniers temps? Et quand ils virent tout à coup ce qui arrivait, il n'y avait plus de salut, et la porte était fermée. Une seule personne reconnut ce signe, ce fut Noé et son groupe, ce fut le seul à le reconnaître. Quand cette porte se ferma, Noé le sut, Noé sut que c'était la fin, il le sut, c'est vrai. Si seulement ils avaient reconnu le signe. Oh! Si seulement ils avaient reconnu ce signe, quand ils virent venir celui qui s'était trouvé avec Abraham, si seulement ils avaient reconnu que le Billy Graham de ce temps-là, qui allait là-bas, lui et Oral Roberts, et qui prêchèrent ce message à ces gens aveuglés. Si seulement ils avaient reconnu que ces justes, ces vieux méthodistes et baptistes, étaient un signe pour ceux de ce temps-là, de même que Lot, dont l'âme était tourmentée à cause de leurs péchés. Maintenant que sont devenus les méthodistes et les baptistes, la même chose que Lot. Mais les justes sortirent de là, assurément. Et si c'était quand Billy Graham allait là-bas, invitant les gens à prendre une décision, alors que ceux-ci mangeaient du chewing-gum, se donnaient des coups de poing riants, les cheveux courts, les visages maquillés, et se même prêtaient la moindre attention au message. Et reviennent le jour suivant en disant, « C'est pourquoi, Billy a déclaré, un jour j'en ai 30 000, mais quand je reviens l'année plus tard, je n'en ai même pas 30. » Ils disent, « J'ai pris une décision, ainsi je n'irai pas en enfer, j'irai au ciel. » Voyez-vous? Et continue dans le péché, bien que l'évangile était prêché dans la puissance, accompagné de signes et de miracles, que la colonne de feu soit apparue, tout arriva exactement comme cela avait été prédit. On a dit, c'est une bande exaltée, c'est de la télépathie, c'est une sorte d'esprit de sorcier, un démon, ce n'est rien d'autre. Ne le croyez pas, cela n'arrive pas dans notre organisation. Nous ne voulons rien avoir à faire avec cela. Si seulement ils avaient reconnu le signe, si seulement ils avaient reconnu, Jésus a dit, si seulement tu avais reconnu ton jour, Jérusalem, si seulement tu avais pu le reconnaître, mais, dit-il, maintenant tu as abandonné à toi-même. Si seulement, ô Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins pour te protéger du jugement à venir, mais tu n'as pas reconnu ton jour, toi qui as lapidé les prophètes et qui as tué les justes, si seulement tu avais connu ton jour, si seulement vous aviez su, connaissant bien l'Écriture, que ma venue était un signe de votre fin. Maintenant vous êtes aveugle. Maintenant vous avez été réprouvé. Votre temps est terminé. Et c'était vrai. C'est juste. Si seulement vous aviez reconnu le temps. Regardez, quand Jésus fait cette déclaration, le monde continua comme avant. Le monde continua comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnurent pas leur heure. Le monde continua comme avant. Quand Noé entra dans l'arche, le monde continua sans autre. Les moqueurs, hommes et femmes, en ce temps-là, continuèrent à vivre dans la corruption. Ils continuèrent à manger, à boire, à se marier et à faire les choses qu'ils font aujourd'hui. Exactement comme si de rien n'était. Tiens, ce pied exalté, ferme la porte. Avez-vous déjà entendu pareille chose? Savez-vous ce qu'il a dit? Que nous allons tous être noyés. Non-sens! Où se trouve l'eau? Il y eut des moqueurs du temps de Noé. Cela arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Bon. Noé reconnut le signe. Ce fut pareil du temps de Lot, ce fut pareil du temps de Jésus. Et c'est ainsi aujourd'hui. Ils se moqueront pour la dernière fois, comme ils le firent à Sodome. Ils ne surent reconnaître le messager avec le message de Dieu. Ils ne firent que se moquer Dieu, que de se moquer d'eux, et essayer de les pervertir, afin qu'ils agissent de la même façon qu'eux. Est-ce vrai? Venez vous joindre à nous. Soyez l'un d'entre nous. Est-ce vrai? Entrez et joignez-vous à nous. Soyez l'un de nous. Vous serez un de nos hommes. Venez, joignez-vous à nous. Ils ne reconnurent jamais leur signe. Ils ne surent pas que pendant que ce message était proclamé, ils ne purent pas voir que le feu, la colère et le jugement de Dieu, un feu ardent de souffle, était allumé dans les cieux. Ils ne pouvaient pas le voir. Mais bien les messagers. Lot le sut aussi. Il sut que c'était là. Certainement. C'est pareil aujourd'hui. C'est la même chose. La colère est embrasée. Les bombes atomiques sont prêtes. Tout est à la fin. C'est la même chose maintenant. Regardez, mes amis. Écoutez. Saviez-vous? Vous dites, frère Branham, oh, connaît-il de tout cela? Vous savez, les gens peuvent continuer à prêcher l'évangile comme ils l'ont toujours fait. Ce qu'ils appellent l'évangile. Cela pourrait être terminé. Ils le firent du temps de Noé. Ils le firent du temps de Lot. Ils le firent du temps de Jésus. Est-ce vrai? Même les Juifs, après que Jésus leur eut dit que la colère, vous êtes finis, il n'y en a plus, vous êtes finis. Et dire, oh, c'est exalté, de quelle école est-il sorti, d'où venait-il? Souvenez-vous qu'il était alors prêt pour son troisième poule. C'est vrai. Il dit, combien de fois ai-je voulu vous rassembler? Lot fit son dernier appel, je veux dire l'ange, le messager, quel qu'il fût, qui représentait Dieu en ce jour. Dieu représenté dans la chair humaine accomplit le dernier signe et remplit sa dernière mission. Alors ce fut vraiment la fin. Noé prêcha son dernier sermon, puis la porte se ferma derrière lui. C'était tout. Ils s'en moquèrent et en rirent. Réfléchissez, les gens peuvent continuer à prêcher. Le conseil œcuménique peut se joindre à l'Église catholique, comme ils ont promis de le faire. Toutes les organisations peuvent se joindre à eux, mais la marque de la bête est déjà là. Ils ont avalé cela. Elles disent, oh, alléluia, que Dieu soit béni. Il y en a eu tant de sauvés hier soir. Vraiment? Ils dansèrent dans l'esprit, ils parlèrent en langue. Cela ne veut rien dire du tout. Oh, ils sont doux, gentils et humbles. Oui, monsieur, ils ont les fruits de l'esprit. Ce n'est pas un signe. Pas du tout. Laissez-moi vous montrer la différence entre les fruits de l'esprit que portait Jésus et ceux des pharisiens, afin de discerner lequel avait les fruits de l'esprit. Qu'arriverait-il si maintenant je prenais position contre Christ pendant une minute, comme j'ai commencé à le dire il y a quelques instants? Que Dieu me pardonne de dire même cela, mais simplement pour vous montrer quelque chose. Si je venais vers vous en disant, dites-moi qui est votre ami, qui manifeste les fruits de l'esprit, votre bon vieux prêtre. Qui vient vers vous à l'hôpital quand vous êtes malade, votre bon vieux prêtre, c'est vrai. Qui vous prête toujours de l'argent quand vous êtes serré, vous les membres de sa congrégation, n'est-ce pas vers votre bon vieux prêtre que vous allez, et ne vous traite-t-il pas de l'argent? Et maintenant, qui est toujours aimable et gentil, montrant les fruits de l'esprit, votre bon vieux prêtre, qui a étudié pendant des années ici dans les synagogues, d'où sortait son arrière-grand-père, depuis le début jusqu'à maintenant, qui a étudié, travaillé dur et reçu des diplômes de docteur pour connaître cette parole et qui l'apporte chaque dimanche matin à sa congrégation, votre bon vieux prêtre. Mais qui est donc ce renégat appelé Jésus? De quelle école est-il sorti? De quelle école vient-il? Où est sa carte de membre? À quelle organisation appartient-il? Que fait-il quand vous avez tous une dispute de famille? Qui vient vers vous, votre bon vieux prêtre? Ils essaieront de... Et quand vous avez un différend avec un voisin, c'est votre gentil vieux prêtre qui vient vers vous, qui vient pour arranger les choses en disant, vous êtes tous les enfants de Dieu, vous ne devriez pas faire cela. C'est ce qu'il met. Mais que fait ce Jésus de Nazareth? Il met tout en pièce. Que fait-il? Il condamne votre organisation. Que fait-il? Il appelle votre prêtre un aveugle, conducteur d'aveugles. Il a appelé un serpent dans l'herbe. Il a pris le sacrifice que Dieu avait prescrit. Il a renversé les tables et jeté l'argent dehors en les regardant avec colère. Avez-vous déjà vu votre prêtre agir comme cela? Maintenant, où sont les fruits de l'esprit? Ce n'est pas en parlant langue, en dansant de l'esprit, en joignant l'église ou par les fruits de l'esprit. La science chrétienne peut en remontrer à n'importe lequel d'entre vous là-dessus, tout en niant la divinité de Jésus-Christ. Non, ce n'est pas cela, mais c'est la parole vivante. C'est cela. S'ils avaient seulement prêté attention, il était le Messie. Il était la parole vivante rendue manifeste. Or, un homme ou une femme qui a l'Esprit de Dieu en lui vit cette parole. Cette parole habite en eux. C'est le battement du cœur, les prédestinés. Car la parole du Seigneur vient à eux et sont la parole pour les gens. Des lettres écrites lues de tous les hommes. Est-ce vrai? Le troisième poule pourrait-il avoir commencé? Vous qui écoutez cette bande, je souhaiterais que vous puissiez voir cette congrégation en ce moment. J'espère que vous ressentez la même chose. Et si c'était le cas, regardez cette succession d'écritures. Serait-ce possible? Le troisième poule, est-ce prêcher à ceux qui sont éternellement condamnés et qui ont rejeté le message du salut? Eh bien, vous dites, l'Église va. Oui, ils le feront. Ils continueront comme avant. Mais souvenez-vous que pendant tout ce temps, Noé était dans l'arche. L'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ. Le dernier membre a été racheté. Le sixième sceau s'est manifesté, et le septième sceau le ramène sur la terre. L'agneau est venu et a pris le livre de sa main droite, et il s'est assis et a réclamé les siens, ceux qui l'avaient racheté. Est-ce vrai? Amen. Cela a toujours été ce troisième poule. Trois est la perfection. Le ministère est arrivé à cette perfection quand il reproduisit Christ à nouveau dans le naturel parmi des êtres humains. Comme il était prédit, ce qui arriva du temps de Lot, oh, pensez à cela, les gens peuvent continuer à prêcher, pensant qu'ils sont sauvés, croyant qu'ils agissent bien, croyant que leur organisation grandit, assurément, elles sont même un rayon d'espoir. Si telle était cette vision, et que cela était si dur à l'égard des femmes, c'est que nous sommes arrivés à cette heure. La porte est fermée. C'est fini. Déjà le livre est dans sa main. Pensez-y. Laissez-moi vous dire ceci maintenant, juste avant de terminer. Je vais terminer. On raconte, en Irlande, faisant face à la mer, il y avait un grand récif qui descendait le long du rivage. Et sur cette grande colline, il y avait là un homme qui marchait sur le rivage un jour, juste au moment de la marée montante. Et sur la colline vivait un brave homme qui connaissait bien les marées. Il connaissait l'heure à laquelle la marée était censée monter. Il savait quand il y avait la marée. Quant à cet autre homme, lui ne se souciait pas de savoir à quelle heure. Il était l'un de ceux qui prétendent tout savoir. Il avait sa propre idée, il était athlétique, adroit et intelligent, mais il ne connaissait simplement pas l'heure de la marée, il ne connaissait pas le pays, il ne savait pas reconnaître le signe de la lune, quand celle-ci tourne le dos à la terre. Et quand Dieu retire son esprit de la terre, frère, elle est finie. C'est entièrement terminé. S'il arrivait que cette lune quitte sa place, les eaux couvriraient la terre, comme ce fut le cas au commencement quand Dieu la créa, dans Genèse 1. Mais la lune est restée là, et quand elle tourne, juste la tête, la marée commence à monter. Ce vieil homme sage qui avait vécu là dans sa présence savait l'heure qu'il était. Cet homme, lui, ne le savait pas. Il ne l'avait jamais étudié, il ne s'en souciait pas. Et ce vieil homme sage sortit en courant et dit, « Mon bon monsieur, n'ayez pas l'audace d'aller plus loin. Revenez rapidement, il y a un mur, vous ne pouvez pas l'escalader, vous périrez, les signes sont là. C'est l'heure, la marée va arriver, tout à coup. » Et vous ne pourrez pas revenir. N'allez pas plus loin. Et l'homme se retourna, se moqua de lui en disant, occupez-vous de vos affaires. Je sais ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Et la marée le prit. Il est peut-être plus tard que nous le pensons. Cela vous surprendra. N'allez pas plus loin. Ne le faites pas. Si vous avez toujours cru en moi en tant que serviteur de Dieu, prenez ma parole ce matin. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est peut-être déjà trop tard. Tellement d'écritures le montrent. Maintenant, sauvez-vous. Je ne dis pas que c'est le cas. Je ne sais pas. Mais regardez simplement. Et j'ai mis ici de côté environ 10 pages que je craignais de vous apporter. Madame Wood en est témoin, de même que Monsieur Wood. Quand je suis allé les trouver ce matin, j'ai dit, je ne peux pas le leur dire. Je ne peux pas. Je leur donnerai seulement un certain nombre d'écritures que je leur confierai parce que ce sera enregistré. Cela ira à des gens qui se moqueront de ce message. C'est en ordre. Ce sera au-delà de tout retour possible un de ces jours. Continuez. Soyez simplement un membre d'église. Coupez vos cheveux. Fardez votre visage. Continuez. Et prenez le Père, Fils et Saint-Esprit si vous voulez. Faites-en 3 dieux et soyez un païen. Continuez. Restez collé à votre organisation. Faites-le si vous voulez. Dites, j'ai dansé dans l'esprit, j'ai parlé en langue, je l'ai reçu. J'ai vu des démons faire la même chose. J'ai vu des sorciers parler en langue et interpréter, et écrire dans des langues inconnues et interpréter. Ils buvaient du sang dans un crâne humain et invoquaient le diable. Ils dansaient dans l'esprit. Les mahométans dansent dans l'esprit jusqu'à supporter de s'enfoncer des échardes sous les ongles ou de prendre une lance, de la faire traverser leur visage comme cela et de la retirer ensuite, sans même qu'une seule goutte de sang coule. Les hindous, eux, marcheront sur le feu pieds nus. Celui-ci est en 90 cm de profondeur et 90 cm à 1,20 m de largeur. Ils attisent le feu jusqu'à ce que les braises deviennent blanches, mais jamais ils ne subissent une seule brûlure ou égratignure aux pieds. Pourtant, ils nient l'existence de Jésus-Christ. Non, non, mes amis, c'est la parole qui le déclare. Les gens, la parole doivent être un. Jésus, la parole, était une même chose. Il était la parole. Et quand Jésus dit dans l'être humain, cela fait de lui... La paix de lui et la parole, une seule et même chose. Votre vie reflète ce que vous êtes. Maintenant, regardez dans ce miroir de Dieu et dites, comment suis-je ce matin pendant que nous prions? à parler en langue et une prophétie sont données par quelqu'un dans l'auditoire. Mais elle est très loin de Dieu. Maintenant, je viens dans la maison. Priez si vous n'avez jamais prié. Ouvre tout grand tes bras d'amour. Seigneur, je viens à la maison. Je viens à la maison, je viens à la maison. Pendant que vous continuez à chanter, je veux vous demander quelque chose. Y a-t-il un point dans votre cœur qui semble être assombri par le péché? Si c'est le cas, maintenant c'est le moment de vous en débarrasser. En ce moment même, s'il y a encore de la miséricorde. J'espère que ce n'est pas ainsi. J'espère que nous n'en sommes pas là. Mais cela ne semble-t-il pas possible? Écoutez ce que le Saint-Esprit a dit aux gens après ma prédication. C'est une voix pour vous. Et s'il y a, et maintenant, si vous avez des ténèbres dans votre vie, ne voulez-vous pas venir ici autour de l'autel pendant que nous continuons à chanter tout de suite? S'il y a une lassitude, s'il y a un poids, ne remettez pas à plus tard. J'espère que ce n'est pas le cas. Mais cela arrivera ces jours. Et cela peut être aujourd'hui. Si ceux qui écoutent les bandes pouvaient seulement voir ce qui se passe ici en ce moment. Ils sont penchés les uns sur les autres, pleurant, s'approchant de partout. Cette vision que mettait un petit garçon, pourrait-elle, est-ce l'heure, est-ce le temps, quand cette scène obsédante et lugubre, l'enfer apparaissant ici sur la terre, l'autel, les couloirs et tout le monde sont remplis maintenant. Si vous ne pouvez pas venir autour de l'autel et dans les couloirs, parmi les centaines qui sont, levez-vous simplement si vous dites, je veux me lever, prier afin que les gens sachent, ou agenouillez-vous, vous faites ce que vous voulez. Oh là là, maintenant, vous pouvez difficilement voir quelqu'un assis. Les gens sont debout partout. Mais qu'est-ce ceci? Que Dieu ne permette pas que ce que j'ai dit soit pour maintenant. Que tout le monde comprendre. Que Dieu ne le permette pas, car j'ai des enfants qui ne sont pas dedans. J'ai deux filles et un fils. J'ai des frères. J'ai ma famille qui n'est pas dedans. Que Dieu ne permette pas que la grâce nous ait quittés. Que tout ceci ne soit qu'une supposition. Et dans ton jour de grâce, Seigneur, permets que je me trompe là-dessus, Seigneur. Permets que ce soit faux cette fois-ci. Que ce ne soit pas le cas, que les gens puissent encore être sauvés. Attends-le, Seigneur, je te prie. Je te remets cet auditoire maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Que tous prient maintenant, comme, et si c'était vrai? Maintenant, je ne sais pas si c'est le cas, mais si c'était vrai, priez comme vous l'entendez. Qu'arriverait-il si c'était la vérité? Que ferions-nous, mes amis? Que ferions-nous? Que va-t-il arriver? Maintenant, priez tous. Priez comme vous voulez. Priez à Dieu comme vous vous sentez poussé à le faire. Oh Dieu! Seigneur, j'avais l'intention de le faire il y a longtemps. Ai-je attendu trop longtemps, Seigneur? Est-ce terminé? Oh Dieu, ouvre tes bras d'amour et reçois-moi. Il y a quelque chose dans mon cœur qui le demande, Seigneur. Ouvre encore une fois. Si mon nom était dans le livre de l'agneau, parle-moi maintenant, Seigneur. Laisse-moi le recevoir maintenant. Veux le faire, oh Dieu.
The Bible says,
La Bible dit que lorsqu'ils reconnaîtront Jésus, chacun pleurera comme si son propre fils avait été tué. Vous qui êtes dehors, vous dans les voitures qui écoutez par onde courte, vous qui êtes debout autour du bâtiment, appuyez votre tête contre le bâtiment en disant, « Seigneur Dieu, sois miséricordieux envers moi. » Mourez d'une façon sincère, mes amis. Pensez au temps que nous vivons. Où en sommes-nous? Je viens à la maison. Je viens à la maison. Seigneur Jésus, j'ai fait tout mon possible. J'ai fait tout ce que je pouvais. Permets, Seigneur, que les portes de la miséricorde soient encore ouvertes à cette foule, à ces centaines d'âmes qui te cherchent en ce moment. Enlève toute tâche de péché, Seigneur, et fais-les entrer aujourd'hui. J'intercède tout mon cœur alors que nous voyons non seulement quelqu'un qui parle, mais l'Écriture elle-même qui nous conduit à cette heure. Dans cette vision, alors que j'étais un jeune garçon, j'ai vu ces gens dans ces conditions, et je pense que l'enfer lui-même, que la miséricorde a été retirée de la terre, et que maintenant l'enfer lui-même est ici. Et les gens, Seigneur, sont dans cette condition hideuse. Dieu Tout-Puissant, je te prie de déverser tes bénédictions sur cette église élue, afin qu'ils puissent recevoir un ministère de témoignage, comme l'a eu Lot, Noé, Jésus, aux éternellement perdus. Que ceux qui sont scellés dans le royaume de Dieu rendent témoignage que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Accorde-le, Seigneur. Puisse recevoir nos requêtes alors que nous intercédons au nom de Jésus. Maintenant, priez comme vous l'entendez. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Et si vous étiez le dernier nom à aller dans le livre? Carneville, viens ici et prie pour eux. Le pasteur va prier avec vous maintenant pendant que nous prions tous.
Of time to be able to consider our ways before Thee. Our God, today from the depth of our soul, we cry unto Thee, Lord.
Seigneur, je te prie de sauver Becky, Sarah et Joseph et tout cela, Seigneur. Ne laisse pas ceci arriver à mes enfants, Seigneur. Ne le laisse pas arriver à mes frères, à mes amis. Accorde-le, Seigneur. Nous ne savons pas. Mais nous voyons quelque chose, Seigneur. Est-ce un signe devant nous maintenant pour nous secouer? Accorde-le, Seigneur. Attire-nous tout près de toi rapidement, Seigneur. Nous t'aimons et nous avons besoin de toi. Permets-le, Père. Que le Saint-Esprit nous réconforte maintenant dans nos cœurs. Nous te prions pour que nous soyons tes témoins en cette heure. Car nous savons que ceci doit arriver. Cela a été prédit au travers des âges et nous devons réaliser que nous sommes à la fin des temps, que nous voyons ces signes apparaître. Nous avons entendu pendant de nombreuses années que cet événement doit arriver. Maintenant, nous voyons cela juste à notre porte. La grande et puissante colère de Dieu est en train de se déplacer dans les rues, emmenant les incirconcis. Là où il n'y a pas le sang sur la porte, l'ange de mort frappe. Bien qu'ils continuent à vivre, ils sont morts, quoique vivants. Sans miséricorde, sans Dieu, et ne pouvons plus jamais être sauvés. Ô Dieu, combien nous te remercions pour ceux qui sont sauvés. Quelle grande bénédiction c'est dans nos cœurs d'être maintenant à l'intérieur sous le sang, pendant que ce dernier ange passe au travers du pays, emmenant ceux qui ne sont pas sous le sang. Ils moururent sans miséricorde. C'était le dernier poule de Moïse. Le premier, c'était un jeune homme qui parlait à Israël. Dans le deuxième, il alla les délivrer. Le troisième, c'était le dernier message qui, les miracles avaient été accomplis. Moïse était en route pour la terre promise à qui est rachetée. Ô Dieu, sois miséricordieux, je te prie, au nom de Jésus. Maintenant, j'aimerais demander ceci. Vous qui priez, vous qui croyez avoir obtenu miséricorde, et que Dieu, vous réalisez que vous êtes dans le royaume de Dieu, vous réalisez que vous avez été ancré d'une façon ou d'une autre. Qu'en Christ, vous avez la foi pour croire que vous êtes un chrétien, que vous êtes né de nouveau, vous savez que vous êtes un chrétien sans doute. J'aimerais que vous leviez tous, vous leviez tous, vous qui croyez que la miséricorde s'est étendue jusqu'à vous maintenant, et que vous êtes un chrétien, vous qui croyez que votre cœur est maintenant lavé par le sang, et que vos péchés sont pardonnés. C'était là une chose très difficile à apporter. Je suis si reconnaissant de voir les gens qui viennent de partout. Je ne sais pas si cette chose est vraie, mais un jour, cela doit arriver ainsi. Cela doit en arriver là, et cela pourrait être maintenant. Et le monde continuera à se conduire comme avant. Les gens viendront toujours à l'autel, ils crieront toujours à Dieu, mais cela ne leur servira à rien. Ce sera parti, ce sera terminé, il n'y aura plus de miséricorde. Souvenez-vous-en, et le sanctuaire se remplit de fumée, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Il n'y a plus de miséricorde. Quand l'agneau prend le livre, c'est fini. Tout est fini. Et on dirait bien que ça pourrait arriver maintenant. Peut-être que nous aurons un autre jour encore. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce jour. Peut-être que demain, c'est le dernier. Peut-être que ce soir, c'est le dernier soir. Peut-être que ceci, c'est la dernière année. Je ne sais pas, mes amis. Je ne fais que vous le dire. Je ne sais pas. Cela ne sera jamais dit. Mais quand Dieu prend ce dernier nom dans le livre de vie et le rachète, tout est fini. Voyez-vous, il ne peut plus y en avoir de toute manière. Il ne peut plus y en avoir de toute manière. C'est tout. C'est fini. Combien savent que c'est la vérité? C'est la vérité. Maintenant que nous sentons, et je vois que cette congrégation à laquelle j'ai prêché, que j'ai averti pendant toutes ces années, quand on voit un message comme celui-ci que j'ai apporté en amateur. Et souvenez-vous, je le dis afin que vous compreniez en amateur. Certaines de ces choses auraient pu presque vous secouer et vous réduire en miettes, mais j'ai dû les omettre. Je me suis senti poussé à le faire, mais parce que je ne suis pas sûr, si je ne suis pas sûr où je marche, j'irai doucement, simplement pour vous dire, écoutez, n'êtes-vous pas heureux? Pourrait-il y avoir quelque chose de plus grand auquel vous pourriez penser, que vous auriez fait dans votre vie? Et si c'était maintenant terminé? Et si c'était tout à fait fini? Oh, vous dites, frère Branham, peut-être, oui, je sais, il pourrait continuer comme avant. Ils l'ont fait chaque fois. Je l'ai expliqué et prouvé par l'Écriture. Le monde continua sa marche, mais néanmoins, c'était fini. La folie de la prédication sauve les perdus. C'est de la folie pour l'homme, mais c'est la sagesse de Dieu. Dieu est esprit. Il agit de manière spirituelle. Il accomplit des prodiges d'une façon surprenante. Mais nous sommes humains. Nous sommes limités. Nous ne savons pas. Nous regardons simplement ce que nous pouvons voir. Mais il y a quelque chose en nous. Quand vous sortez de cet endroit ici, si vous ne l'aviez jamais vu de votre vie, si vous n'aviez jamais vu la lumière du jour, vous sauriez que vous avez passé de cet endroit à un autre où il y a la lumière du soleil. Il faisait chaud. Vous pouviez le sentir. C'est aucun sens de votre corps, si vos yeux ne le déclaraient pas, vous le sauriez tout de même. Si vous ne pouviez voir les arbres verdoyants, voir la nature, si vous n'aviez pas la vue, si personne ne l'avait, vous sauriez néanmoins que vous êtes dans la présence de quelque chose, car vous le sentiriez. Vous sauriez que, si j'essayais de vous expliquer, c'est le soleil, il se réfléchit, il révèle les choses. Vous le sauriez parce que vous pouvez le sentir. Est-ce vrai? Maintenant, nous savons que Christ est ici. Peut-être que vous ne le voyez pas avec vos yeux. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais par une vision, je peux vous dire qu'il est ici. Nous le sentons. Nous savons qu'il y a quelque chose ici que nos sens ne déclarent pas. C'est l'Esprit qui déclare que Christ est ici. J'ai l'impression qu'il nous a rachetés. J'ai l'impression que nos noms sont dans son livre. Je crois que nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Je vous aime et je sais que vous vous aimez les uns les autres. Oh, béni soit le lien qui unit nos cœurs dans un amour chrétien. La communion d'âmes sœurs est pareille à celle d'en haut. Nous devrions toujours nous sentir ainsi l'un vers l'autre. Nous le devons. Nous devons nous sentir ainsi l'un vers l'autre, parce que si nous nous aimons les uns les autres, nous aimons Dieu. Pouvez-vous haïr votre frère que vous voyez et dire que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas? Nous devons nous aimer les uns les autres. Aucun homme n'a de plus grand amour que celui qui donna sa vie pour ses ennemis afin qu'ils puissent devenir ses amis. Oh, connaissez-vous ce chant? Béni soit le lien qui unit. N'est-il pas merveilleux? Béni soit le lien qui... Voudriez-vous nous donner un accord, sœur? Jouez-le-nous une minute. Et si c'était terminé? Et si le troisième poule qui vient maintenant, c'est de prêcher aux perdus? Et si tous les types allaient être confirmés maintenant? Et que nous soyons à l'intérieur? Que nous soyons à l'intérieur? Cela ne serait-il pas merveilleux? Quelle communion! Qu'est-ce? La communion d'âme seule. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Voyez-vous, au lieu de cela, nous essayons de faire de Dieu un porte-bonheur, un garçon de course. Dieu fait ceci, fait cela. Jésus a dit, priez que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors le ciel est venu jusqu'à nous, et nous sommes attirés vers le ciel. Et nous sommes maintenant assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous croyons tous que ce message est la vérité, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a rachetés. Fermons les yeux maintenant et levons les mains pendant que nous le chantons. Maintenant, pas de sourire. Ce n'est pas le moment de sourire. Avec une profonde sincérité, pendant qu'on joue ce cantique, serrez la main à quelqu'un près de vous en disant que Dieu vous bénisse, chrétien, avec sincérité. Que Dieu vous bénisse, Franeville. 59 ans, c'est un long chemin. Maintenant, levons nos mains vers lui. Quand nous nous séparons, cela nous donne une tristesse intérieure. Mais nos cœurs seront toujours unis dans l'espoir de nous rencontrer de nouveau. Maintenant, inclinons nos têtes. Et ensemble, ne sachant pas en ce moment ce que nous réserve l'avenir, ne sachant pas si c'est terminé, je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire, je ne sais pas. Mais devant les fêtes qui ont été révélées ce matin, prononçons la prière que le Seigneur nous a enseignée. Même si c'est le cas, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, disons-la ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Sur la terre et sur le ciel. Nous devons nous donner. Maintenant, avec vos cœurs inclinés, La Bible dit qu'ils chantèrent un hymne et sortirent. Souvenez-vous que lorsqu'ils firent cela dans l'Écriture, c'était parce qu'ils avaient crucifié le ministère de notre Seigneur dans le deuxième poule. Le troisième poule étant prêt à se manifester. Quelques heures après cela, il alla en enfer et prêcha aux perdus qui avaient rejeté la miséricorde. Un accord, s'il vous plaît, pour ma foi, regardant vers toi. Ma foi regarde en haut vers toi, toi, agneau du calvaire, sauveur divin. Maintenant, entends-moi alors que je prie. Enlève tous mes péchés. Oh, laisse-moi dès ce jour être entièrement à toi. Pendant que je marche dans le labyrinthe sombre de la vie et que la désolation s'étend autour de moi, sois mon guide. Ordonne aux ténèbres de se changer en lumière. Essuie mes larmes de tristesse. Oh, laisse-moi dès ce jour être entièrement à toi. Que le Seigneur vous bénisse et puisse son soleil et sa grâce briller sur vous et puisse le Seigneur vous donner la vie éternelle, être avec vous ici en ce monde et dans le monde à venir. Dans la vie éternelle, puissiez-vous le servir tout au long des milliers d'années qui viendront. Si c'est le moment et que nous en sommes arrivés là, je n'ai pas honte de ce que j'ai prêché. Et si chaque prédicateur doit se présenter avec sa congrégation, être jugé comme je l'ai vu dans la vision, je suis reconnaissant pour l'évangile que j'ai prêché, parce que c'est le même évangile que Paul et les autres ont prêché. Je suis heureux pour vous, je suis heureux que vous ayez reçu Christ comme votre sauveur. Aimez-le et priez, et je vous verrai ce soir, Dieu voulant, à 7 heures ici à l'église. Que Dieu vous bénisse, la réunion est terminée.